Il est 7 heures et en fait, pour le moment, j'ai rien préparé, je suis au courant de rien. Mais est-ce si grave? Quand on n'a pas ouvert le journal, quand on n'a pas allumé Internet, est-on quand même un citoyen? Quand on n'a pas changé l'eau des plantes vertes, quand on n'a pas caressé le chat, quand on n'a pas parlé à son entourage, quand on n'a pas fait travailler les transports publics, quand on n'a pas encore acheté, consommé, quand on n'a pas encore parlé, échangé, quand on ne s'est pas informé, quand on ne s'est pas allumé le cerveau, quand on n'a pas mis encore la lumière à tous les étages, est-on déjà un citoyen? Quand on ne sait pas le temps qu'il fait au fin fond du fin fond de quelque chose sur la planète, quand on ne sait pas qui gouverne telle république du fin fond d'ailleurs, de loin, de près, quand on n'est que soi avec ses problèmes d'homme, quand on est juste soi sous les étoiles, est-on un citoyen? Ah, angoisse terrible de ce matin. Oui, oui, nous sommes un dans la cité, unis aux autres par ces mystérieuses forces qui fait qu'on est vivant ensemble. Nous vivons dans la même planète, le même jour, ce jeudi. Jeudi combien?
Alors, on connaît quoi? On est le 8 aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que je me sens pas. Hein? On est ensemble. Tout le monde, tous ceux qui sont vivants ce jeudi 9 sont ensemble. Tiens, c'est Marie. C'est Marie, c'est Marie,
c'est
avec les infos du jour. Vous ne savez pas, Armel, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, sauf que vous ne savez pas distinguer Atmen Khelif de Marie Bonisseau.
J'ai jamais su.
Alors je sais que vous êtes tellement peu sexiste.
C'est facile pourtant, c'est facile.
Alors quel est l'élément? Il a des lunettes, tout simplement.
Voilà, tout
le
simplement.
Journal de Marie Bonisseau, il est 7h02.
Radio Nova. Le soutien au jeune Théo prend de l'ampleur. Hier soir, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées à Paris et à Nantes pour dénoncer l'agression de ce jeune d'Aulnay-sous-Bois par des policiers. La semaine dernière, l'un est mis en examen pour viol, je le rappelle. À Aulnay, l'appel au calme semble avoir été entendu. Hier, 5 personnes ont été condamnées. Elles étaient jugées pour avoir participé à des échauffourées lundi dans la cité des 3000, celle là où a eu lieu l'arrestation de Théo. 2 d'entre elles prennent 6 mois de prison ferme pour embuscade, les 3 autres 6 mois avec sursis. Une étape clé dans le divorce avec l'Union européenne. Les députés britanniques ont adopté hier soir le projet de loi qui autorise la première ministre Theresa May à déclencher le Brexit. Le texte arrive maintenant à la Chambre des Lords qui devrait l'adopter. Theresa May a promis d'entamer les négociations avec Bruxelles avant fin mars. Ça pourrait durer autour de 2 ans. Le sénateur qui soufflait à l'oreille de Donald Trump sera bien ministre de la Justice. L'ultra-conservateur Jeff Sessions, inspirateur du fameux décret anti-immigration, a été confirmé par les sénateurs américains. Le camp des Républicains a fait bloc pour soutenir la nomination de celui qui fut l'un des premiers à se rallier à Trump pendant la campagne. Trump président, Trump homme d'affaires, Trump papa. Il avait promis de ne pas tout mélanger. Pourtant, hier, le président américain a tweeté au secours de sa fille Ivanka, dont la marque de vêtements a été retirée de la chaîne de magasins Nordstrom. Officiellement parce que les habits d'Ivanka se vendaient mal, mais Trump accuse la marque d'avoir commis une injustice. Nordstrom, il est vrai, n'a pas caché son opposition au décret anti-immigration. Le coït, ça n'est plus automatique pour interdire un film aux moins de 18 ans. Un décret publié aujourd'hui dans le journal officiel assouplit les critères de classification. Jusque-là, dans le code du cinéma, il était écrit que toute scène de sexe non simulée entraînait automatiquement l'interdiction aux mineurs. Mais après les procédures d'une association proche des catholiques traditionnalistes contre, par exemple, Love de Gaspard Noé et La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, la ministre de la Culture avait décidé de supprimer cette mention pour laisser plus de liberté d'appréciation à la commission de classification. C'est donc chose faite. En football, l'OM repart 2-0 hier soir face à Guingamp. But de Bafétimbi Gomis et Dimitri Payet qui réussit donc son retour au Vélodrome. Marseille reste 6e au classement de Ligue 1 à égalité avec Saint-Etienne. Les Verts qui ont, eux, perdu contre Nice hier. C'était 1-0 le score final. Et puis Drake domine le monde et il est premier dans le classement annuel des ventes d'albums en 2016. Views est le premier album à avoir été écouté 1 milliard de fois sur Apple Music et One Dance, son single, première chanson jouée plus d'1 milliard de fois sur Spotify.
C'est beaucoup, il faut se les figurer. Les amis, autour de cette table, merci Marie Bonisseau, la fine fleur, des gens de vous ce matin. D'abord Marie Bonisseau, vous avez entendu, brillante. Nous avons aussi, bien sûr, Marie Misset qui se prépare là, à 3 mètres derrière pour sa revue de presse. J'aime bien, il faut rappeler un petit peu, vous n'êtes pas seul sur cette terre, il y a des gens qui sont là debout. Armel M, depuis 4h du matin, fait des pompes pour pouvoir réaliser l'émission. Eugénie Poumaillou est en train de tout préparer, les invités, les téléphones. Et puis les trois, je les confonds un peu. Thomas Baumgartner, Atmen Khelif et Christophe Meillet, je ne sais pas lequel est le
Méné.
Méné.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Meillet.
Je ne peux pas savoir toutes les consonnes de vos noms, les gars. Moi, il y a un moment...
On ne se connaît plus 15 ans.
Oui, mais ce n'est pas la question.
On ne vous appelle pas Édouard Beller.
Non.
On sait très bien que c'est Édouard Bure.
Voilà, ça on sait.
Je vais vous le dire gentiment. Faites très attention.
Ah oui.
C'est votre intérêt.
7h, 9h, plus près de toi.
Ça va ? Plus près de toi.
7h, 9h,
Édouard Beller.
Je passe une matinée... Mon Dieu.
C'est très beau à voir l'ambiance du studio de Radio Nova de plus près de toi ce matin. C'est très studieux, chacun feuillette quelque chose. Marie Misset à Le Monde diplomatique, New Observer, Newsweek, Atmen, des journaux plus spécialisés avec des dames qui ont oublié leurs vêtements. Oui. Thomas Baumgartner prend des notes, on fume du café, Atmen finit un Armagnac, il y a des croissants, Christophe Méné fait des découpages et des coloriages, enfin c'est formidable, il y a une émulation merveilleuse. Qu'est-ce que vous avez tiré de tout ça?
Il y a une ambiance d'interro.
Oui, il va y avoir une interro. Atmen, qu'est-ce que vous avez tiré de la presse ce matin?
Moi, je suis allé au cœur de l'investigation, j'ai trouvé le meilleur journal pour ça, un gratuit, Direct Matin.
Oui, qui est distribué alors à la sortie des...
Le métro le matin gratuitement, voilà. Et hier, c'était hier parce que...
Et vous me disiez, le gratuit a meilleur goût.
Et puis surtout, je pense que les infos sont vraiment gratos, donc autant en profiter.
Bien sûr, c'est Bolloré, Thomas, Direct Matin?
Oui.
Alors c'est bien.
D'ailleurs, le Direct Matin qui fête ses 10 ans depuis hier. Oui. Voilà. Donc, à quoi servent les moustaches du chat? Je trouve que c'était au milieu.
Il était temps qu'on en parle.
C'était quand même une info.
Que les chats ont des moustaches. Voilà. Alors, la moustache d'Hitler, on voit bien. Ça lui donne de l'autorité. Mais
justement,
chat...
on va y venir. Parce que, bon, je vais aller vite sur la moustache du chat. Elle lui sert à être un radar. Elle lui sert à évaluer les distances. On ne les coupe pas pour. La mère du chat les coupe quand il est petit pour pas qu'il s'éloigne trop. C'est vraiment un truc comme. On va dire des phares et des rétroviseurs. Voilà, c'est tout. Mais tout ça, bon, c'était une petite chronique à Alain Bougrain-Dubourg, tout ça pour parler des Kittler. Je ne sais pas si vous connaissez les Kittler, ce sont des chats qui ressemblent à Hitler. Et il y a un concours sur le net, clandestin, du meilleur chat qui ressemble à Hitler.
Voilà, donc,
c'est un concours clandestin. Oui,
parce que les gens ne disent pas tellement à qui est le chat.
On n'en est pas fiers, oui.
Alors c'est souvent un chat suédois, un gros chat avec la belle moustache et surtout
Alors on n'a pas, c'est bizarre que ce soit toujours le seul référent en moustache, il y a d'autres moustaches célèbres, Charlot.
Je vous montre un petit peu, voilà.
J'ai d'ailleurs reçu un livre formidable qui s'appelle Les 50 moustachus qui n'ont jamais rien fait de mal dans le monde. Comme si la moustache était le signe qu'on va mal se comporter en société.
Ouais. Et juste pour finir, il y a un chat, donc en Angleterre, qui a été passé à tabac, un chat qui ressemble à Hitler, qui a été passé à tabac par des gens. Donc la propriétaire s'est plaint, l'a amené le chat à la police. Il a été battu parce qu'il ressemblait à Hitler, a dit
Et puis, imaginez un chat qui a une perruque blonde sur la tête, il lui arrivera des problèmes.
Voilà,
aussi.
C'est ça.
Alors, Marie Misset.
Alors là, je suis en train de lire sur la disparition de Svetlana Todorova dans Le Monde, donc ça me demande un petit peu de cerveau. Très grand.
Ce philosophe d'origine bulgare.
Tout à fait, oui, sémiologue. Qu'on étudie beaucoup en sciences de l'information et de la communication, et qui dit une phrase formidable, je trouve, qui dit « Il est possible de résister au mal sans succomber à la tentation du bien. » Et à côté de ça...
La tentation du bien ou dans le sens de la pureté
Oui, je crois que c'est ça. Oui. On parle d'un nouveau totalitarisme qui serait celui du bien. Et alors, à côté de ça, j'ai lu dans Le Parisien, donc ils font tout un dossier sur Aulnay Sous-Bois, révélation sur une bavure, le truc est assez sérieux, quand tout à coup... au milieu d'un article très sérieux, on nous explique qu'un policier dit « J'ai moi-même été blessé à l'épaule par un oignon congelé. »
Il y a des trucs dégueulasses sur Internet qui parlent, par exemple, les gens détestent tellement Hollande qu'il y avait cette image assez digne de Hollande qui, normalement, en tant que représentant de l'État français, donc de la police, est allé voir le jeune homme qui a été agressé par les policiers. Et il y a sur plein de sites, les gens disent « Oui, voilà, ça pour aller voir la racaille, il y va, mais quand c'est des policiers qui sont attaqués, il n'y va pas. » Enfin, tout à coup, fleurissent des contre-attaques d'extrême droite très, très dures et très pénibles.
Faire des revues de commentaires de presse au lieu de revues de presse, ce serait bien.
Et commenter mon commentaire. Mais Christophe Méné.
Oui, moi je viens de lire une information que je trouve pas du tout réjouissante. En fait, ils vont bientôt construire un mur anti-balles pour protéger la Tour Eiffel. Voilà, ça va faire 2,50 m de haut. Et donc ça va rester comme ça indéfiniment. Je pensais même que c'était provisoire.
Il y a des gens qui veulent tirer sur la Tour Eiffel.
Bah, c'est pour protéger, des attaques terroristes, voilà.
Un mur en verre.
Oui, il va être en verre, le mur.
On pourra se balader sous la Tour Eiffel.
Est-ce que quelqu'un à la fin, ça veut dire? Quelle époque!
Mon Dieu! Ma petite Tour Eiffel qui va être dans un bassin.
À l'époque, Tour Eiffel, on en entrait, on sortait, on mangeait sa gaufre. Quelle époque! Thomas Baumgartner.
Oui, Edouard. Vous avez besoin avec un...
Avec un journal en papier, ouais, avec Libération, qui tise sur la fin du travail, point d'interrogation, les caissiers en première ligne comme une... comme un début de quelque chose, parce que l'actualité, c'est Amazon qui lance des supermarchés aux États-Unis qui s'appellent Amazon Go, sans plus aucun personnel aux caisses, sans plus de caissière. Donc il y a quelques témoignages de ce travail qui est compliqué et pénible, hein, des salaires très bas, des temps partiels subis, des peu de pauses, 4-5 heures à la caisse avant de faire 5 minutes de pause. Donc en même temps, en lisant ça, on se dit... Voilà, effectivement, c'est un bouleversement pour beaucoup de monde, mais est-ce que la fin d'un travail pénible, c'est pas aussi le début d'autre chose pardon ?
Débat.
Bah, enfin, ne
débat,
vous mettez pas à la place des dames qui font ce métier.
Ah, non,
et puis,
c'est
lien, quand on achète le rapport humain, enfin, écoutez, qui êtes-vous pour juger la pénibilité de métier que vous n'occupez pas ?
On va subir un changement, et ben, c'est peut-être l'occasion de réfléchir.
Ils jugent tout.
Comment... Et Thomas, moi, tu juges dans mon Franprix, on a tous des relations extraordinaires, c'est le meilleur Franprix de France.
Donc voilà, vous êtes content de retrouver la caissière, elle vous connaît, vous avez, voilà, elle garde vos enfants.
Je me rends compte qu'on ne peut pas mettre certaines questions disruptives sur la table sans être jugé à son tour en retour.
C'est vrai que c'est à vous qu'on s'en prend.
Voilà,
c'est,
on dirait que je suis Amazon Go.
Et bien moi, je me suis beaucoup intéressé hier soir. J'ai été voir beaucoup sur internet des bidoum challenge. J'aime beaucoup le bidoum challenge. Le bidoum challenge,
c'est asiatique.
Non, c'est au Cameroun. Ah. Le ministre des Sports au Cameroun s'appelle Monsieur Bidoung. Et c'est vrai qu'on a l'impression que souvent dans plusieurs pays africains qui sont gouvernés par des gens qui sont là depuis très longtemps, il faut faire très attention. On ne peut pas faire d'humour du tout avec le président. Eh bien, Monsieur Bidoung, lui, était le contraire, parce qu'il était très obséquieux. Et il y a une image de Monsieur Bidoung, le ministre des Sports, saluant le président Paul Biya, et qui s'est incliné tellement bas, qui est allé tellement loin dans l'obséquiosité. Vraiment, il s'est transformé en carpette que partout sur les réseaux sociaux camerounais, les gens ont fait le bidoum challenge. Ils se saluent entre eux en essayant de se foutre le plus bas possible. Donc il y a un mec qui serre la main de son pote en étant un étage en dessous. Et vous savez que les lions indomptables ont gagné, l'équipe camerounaise de foot a gagné. Donc toute l'équipe a été présentée à Paul Biya, qui a fait un très beau discours. Et à la fin, culot incroyable, invraisemblable, il y a encore quelques années devant Paul Biya, il y a trois des joueurs qui se sont inclinés, qui ont fait un bidoum challenge, qui ont quasiment rampé pour lui serrer la main.
Magnifique.
Voilà.
Non, mais c'était.
Je suis content de mon petit billet.
Vous aviez travaillé.
Je vais me lancer dans le journalisme décalé. Tout de suite. Alors, il y a la version de Gainsbourg sur la beauté cachée des laits, puis il y avait la version de Carlos qui disait l'amour, ça rend beau les laits.
Voilà, ah oui, je la connaissais.
Alors
pas.
Alors, l'amour, ça rend beau les laits. Voilà.
Arrêtez
de chanter du Carlos sur Nova pendant 3 minutes, Christophe Méné.
Pardon, j'aime bien.
Bah, vous l'avez
je trouve ça subversif.
Je ne vais pas parler de ça du tout. Bah, tout. Atmen Khelif, oui. vous allez avoir droit à votre petite publicité.
Un petit peu, de temps en temps, ça fait pas
de
mal.
On va faire un petit peu de pub.
Ça
évitera Monsieur Pigas de vous payer.
Oui, voilà, c'est ça.
Parce que vous êtes demain soir dans un spectacle de Gérard Mordillat au Théâtre du Rond-Point.
Oui.
Ce festival au Rond-Point qui s'appelle Nos Disques sont rayés, qui essaye de renouveler la parole politique.
Oui, et de faire des actions un petit peu contre les montées un petit peu fascisantes du pays. Un peu,
oui, voilà. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit au Théâtre du Rond-Point qu'on arrivera à résoudre. Est-ce qu'on ne s'adresse pas déjà à des gens convaincus ? Bonjour Gérard Mordillat.
Bonjour.
Gérard Mordillat, vous êtes déjà en forme à cette heure-là ?
Mais vous savez, je me lève toujours de bonne heure, alors ça va, il n'y a pas de problème.
Vous faites du vélo toujours, Gérard ?
Je fais toujours du vélo, pas ce matin, parce que j'en fais pas de vélo quand il fait nuit, mais j'en fais tous les week-ends et je fais du sport.
Vous voilà. Sculptez votre corps, vous êtes prêt au combat, Gérard ?
Oh, absolument, j'ai repris l'entraînement de boxe.
Ah oui, donc vous êtes vraiment prêt. Moi, présidente, ça s'appelle, c'est un spectacle de Gérard Mordillat. Pour le moment, ça va être dit qu'une seule fois, demain soir, au Rond-Point ?
Oui, c'est une lecture spectacle, et puis on va recommencer plus tard à Mantes-la-Jolie, on va aller à Annecy, à Chambéry, voilà. Voilà, c'est une chose qui est en train de se monter, bah, parce que, bien sûr, ça fait un peu peur d'avoir la présidente qui soudain exprime son programme sans phare, sans hésiter, expliquant comment elle va supprimer le chômage, rétablir l'esclavage, organiser une croisade, et puis... Aussi une question très importante sur l'éducation, parce qu'elle s'est rendu compte d'une chose. Aux États-Unis, même les petites gros, même les pisseuses, même les latinos, tout le monde parle anglais. Alors qu'en France, que dalle. Donc elle va changer tout ça.
Ah, donc elle va, d'accord. Donc c'était un spectacle de politique fiction. On imagine une femme qui devient présidente de la République française. D'après ce que vous en dites, elle n'a pas l'air extrêmement modérée ni d'extrême gauche. D'extrême gauche, Gérard Mordillat, cette présidente.
Ben c'est une sorte de mère Ubu. Hein.
Oui.
C'est très précisément ce que j'ai écrit. C'est une sottise, c'est-à-dire c'est une farce provocatrice, vulgaire, insultante, etc. Et la présidente, eh bien, c'est la synthèse de toutes ces vulgarités qu'on entend aujourd'hui dans le discours politique, de tout ce néo-fascisme qui est en train de remonter de façon terrifiante. Eh bien, ma présidente, c'est à la fois, bien sûr, Marine Le Pen, mais c'est aussi M. Fillon, M. Valls, M. Hollande, enfin tous ceux-là qui sont prêts à redonner au doute chez la place qu'ils méritent.
Ah oui, vous êtes, vous mettez tout le monde dans le même sac, Gérard Mordillat, vous radicalisez en grandissant avec le temps.
Peut-être, voilà, non, mais parce que c'est, on est en train de vivre une période vraiment dégueulasse.
Alors ici dans le studio, nous on reste enfermés là, donc on s'en rend pas compte. Non, mais il y a des ministères, hein, il y a des nouveaux ministères autour de votre présidente. Il y a un ministre du racisme efficace, il y a un ministre de la précarité raisonnable.
Il y a savoir et folklore.
Un ministre de Maguerre aussi.
De Maguerre, bah parce que la présidente dit si on doit envoyer tous ces connards les petits doigts sur la couture du pantalon. Se battent contre ceux qui ne veulent pas de nous, eh bien, c'est moi qui le décide, donc c'est ma guerre, il n'y a personne d'autre. Voilà, il y a aussi, elle a aussi ma télévision, bien entendu, ma radio, etc. Tout est passé à la première personne.
Quand on fait un spectacle comme ça, j'imagine que ça part d'une colère, mais est-ce qu'après, le plaisir de le faire, le plaisir de voir interprété par des comédiens, de le partager avec un public, est-ce que c'est de la joie, finalement, c'est un acte de résistance, mais qui rend joyeux, c'est pas juste de la colère?
Non, mais non, parce qu'il y a une récompense. D'un seul coup, on partage quelque chose et simplement, on partage des mots que beaucoup disent, beaucoup entendent, beaucoup prononcent et qui, d'un seul coup, leur sont renvoyés par les acteurs comme un miroir et un miroir évidemment grotesque, déformant, qui, j'espère, provoque le rire.
Alors, cher Gérard Mordillat, même si on peut dire d'une certaine façon qu'à un certain niveau, là-haut, l'époque est assez dégueulasse sur un des mouvements généraux politiques, on peut reconstruire des petites époques, des petits lieux de joie et d'enthousiasme.
Mais non seulement on peut, mais on le doit, parce que si j'ai une conviction profondément ancrée en moi, c'est qu'aujourd'hui, la parole politique étant ou disqualifiée, ou impuissante, ou corrompue, les seuls capables de dire le réel, eh bien, ce sont les dramaturges, les romanciers, les poètes, les cinéastes, les artistes au sens général, exactement comme ça a été le cas en Angleterre, sous Margaret Thatcher.
Et puis des petites joies quotidiennes de gens qui n'ont pas forcément la chance de s'exprimer sur scène au cinéma, mais qui reconstruisent dans leur rue, au bistrot, dans leur entourage, des éclats de rire.
Ben, vous savez, j'aime beaucoup cette idée de Fellini qui disait « En Italie, il y a 50 millions de comédiens, les plus mauvais sont ceux qui font du cinéma ». Et ben, on n'est pas loin de ça en France aussi, parce qu'il se joue un peu partout des scènes absolument magnifiques et qu'il suffit de regarder, d'apprécier et de se sauver par le rire, qui est toujours l'arme ultime contre, finalement, toutes les tyrannies.
Nous, on a la chance avec Jacques Souvent, qui se balade dans la rue avec un micro, de rencontrer des gens épatants le matin comme ça. Il est comment, mon petit Atman Khelif, dans votre spectacle?
Il fait un truc épouvantable. Il fait un journaliste. On peut pas faire pire. Donc, voilà, il est d'une obséquiosité parfaite devant la police.
Ah, il est remonté, mon Gérard. Ouais, oui. Merci Gérard. C'est demain soir à 21h au Théâtre du Rond-Point à Paris. Puis après, il y aura d'autres dates. Hein, on a vu à Mantes-la-Jolie.
Venez nombreux.
Oui, mais déjà un, c'est bien.
Déjà beaucoup.
Salut Gérard.
Salut.
Gros bonne journée.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Ah, vous voulez savoir ce qu'on écoutait?
Oui.
C'était le groupe Divo. Divo, le célèbre groupe Divo en combinaison orange avec des pots de fleurs sur la tête. Vous avez peut-être vu des images de ce groupe avec une reprise.
Non.
Non, vous n'avez pas vu ça?
Non.
Eh bien, ça manque, je pense, à votre culture.
J'ai cru reconnaître les Rolling Stones. Non,
je pense que c'est une reprise, très simplement.
Simplement.
I can't get no satisfaction. Il n'arrive pas à obtenir satisfaction. Divo non plus. Donc, plutôt que de le dire à sa sauce, reprend ses paroles qui sont celles. Moi, c'est un plus que vous apportez à l'auditeur Nova Armel, parce que très souvent, les gens vont chercher ensuite le morceau, vont chez leur disquaire, ouvrent leur pick-up.
Ils n'ont pas...
Ah non, ça c'est en 72, oui. Pardon. Le journal de Marie Bonisseau.
Radio Nova.
Deux jeunes d'Aulnay-sous-Bois condamnés à 6 mois de prison ferme hier par le tribunal de Bobigny. Ils sont accusés d'avoir participé aux échauffourées dans la cité des 3000 lundi après l'agression et le viol présumé de Théo par des policiers. 3 autres jeunes accusés ont pris 6 mois avec sursis. À Aulnay cette nuit, pas d'incident, mais le soutien à Théo prend de l'ampleur. Hier soir, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées à Paris et à Nantes pour dénoncer les violences policières. Une étape clé dans le divorce avec l'Union européenne. Les députés britanniques ont adopté hier soir le projet de loi qui autorise la Première ministre Theresa May a déclenché le Brexit. Le texte arrive maintenant à la Chambre des Lords qui devrait l'adopter. Theresa May a promis d'entamer les négociations avec Bruxelles avant la fin du mois de mars. Ça pourrait durer autour de 2 ans. Aux États-Unis, l'ultra-conservateur Jeff Sessions, inspirateur du fameux décret anti-immigration, a été confirmé par les sénateurs américains. Il sera ministre de la Justice. Le camp des Républicains a fait bloc pour soutenir la nomination de celui qui fut l'un des premiers à se rallier à Donald Trump pendant la campagne.
C'est formidable, c'est que tous les gens nommés par Trump, maintenant il n'y a plus d'appellation. C'est qu'avant, il y avait la droite du Parti Républicain, il y avait le Tea Party, ensuite on disait le conservateur néo-ultra, puis là maintenant il n'y a plus de mots. Même nazi, pour certains, ça sera plus assez. L'extrême, le type qui pense que vraiment Hitler était vraiment très modéré. Ce sera ça qu'on dira bientôt, pardon.
Les mineurs pourront voir des vrais coïts au cinéma. En tout cas, l'interdiction aux moins de 18 ans n'est plus automatique. Un décret publié aujourd'hui dans le journal officiel assouplit les critères de classification. Jusque-là, dans le code du cinéma, il était écrit que toute scène de sexe non simulée entraînait l'interdiction aux mineurs. Mais après les procédures d'une association proche des catholiques traditionnalistes contre notamment Love de Gaspard Noé et La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, la ministre de la Culture avait décidé de supprimer cette mention pour laisser plus de liberté à la commission de classification.
Qu'est-ce qui se passe avec cette info? Vous allez nous la resservir toutes les demi-heures? Vous croyez que ça change ma vie?
Ben si.
Hein, vous n'êtes pas mineur, mais pensez aux 17 ans, aux gens qui ont 17 ans.
Qui ont envie de voir Emmanuel.
Moi j'ai 16 ans, j'ai envie d'aller au cinéma.
C'est simulé, Emmanuel.
C'est simulé.
Oui, alors que sur Internet, il y a le plus... Continuez, pardon.
Greenpeace et une quarantaine d'ONG européennes s'attaquent au glyphosate. C'est le pesticide le plus utilisé, c'est le principe actif du Roundup notamment. En Europe, il fait débat depuis 2 ans et demi et cette fois, les associations ont décidé de mettre la pression sur Bruxelles avec une initiative citoyenne. En fait, le principe, c'est qu'il faut récolter 1 million de signatures pour que la Commission européenne reçoive une demande d'interdiction de cet herbicide classé comme probablement cancérigène. En football, l'OM repart, victoire 2-0 hier face à Guingamp, but de Bafétimbi Gomis et Dimitri Payet. Marseille est 6e au classement de Ligue 1 à égalité avec Saint-Étienne qui lui a perdu. Saint-Etienne contre Nice hier 1-0. Et puis une bonne nouvelle pour les Lyonnais qui ont largement battu Nancy 4-0. Drake tape le milliard, le rappeur est premier dans le classement annuel des ventes d'albums en 2016. Views, son album, est le premier à avoir été écouté 1 milliard de fois sur Apple Music. Et One Dance, c'est la première chanson jouée plus 1 milliard de fois sur Spotify. Et puis pour la météo, sachez que le soleil refait son apparition aujourd'hui, notamment sur toute la côte atlantique, mais il va faire plus froid.
Comment s'appelle le pesticide là qui va être interdit?
Le glyphosate.
Ça tombe bien, il est là. Nova. Pierre Atman, glyphosate,
oui,
bonjour.
Oui, bonjour.
Pierre Atman, glyphosate, vous êtes donc l'inventeur
du glyphosate.
Du glyphosate, c'est-à-dire c'est vous qui avez vraiment déposé
l'herbicide pesticide mortel pour les plantes, les animaux et
les êtres humains. On va y venir. Donc au début, c'est un brevet, ensuite c'est une commercialisation. C'est plus de 3 milliards de bénéfices dégagés l'année dernière.
Oui.
On parle, vous venez de racheter la maison de Johnny Depp à Saint-Tropez.
Oui,
vous venez de racheter aussi deux de ses ex-femmes ainsi que ses animaux.
Et le bateau de Bernard Tapie.
Et le bateau de Bernard Tapie. Et les chansons de Johnny Hallyday.
Oui.
Pierre Atman,
tout ça dans le pesticide.
Au départ, c'était plutôt un humanicide. Il s'agissait de tuer que les humains. Et vous êtes aperçu que ça marche aussi
sur les animaux, sur les plantes et sur les arbres. Et c'est tous les petits animaux de la forêt.
Alors, dans vos mémoires, je les déteste tous. Hein.
Oui.
Vous parlez d'abord d'un dégoût de l'humanité. Vous avez une très belle théorie sur l'extinction du genre humain qui s'est étendue très récemment aux plantes.
Oui, parce que les plantes sont aussi, c'est pas bon. C'est pas bon, j'aime pas.
Vous avez une voix très nasale.
Oui.
Vous n'êtes pas très sympathique.
Non.
Voilà, on va rencontrer votre femme Pénélope Glyphosate
tout à l'heure. Après.
Alors. Oui, je suis entouré de gratte-ciel en fait. Je voulais aller sur Lyon, je suis resté sur Villeurbanne. Et ici, il y a des gratte-ciel, on a l'impression d'être en 1930 aux États-Unis, quoi. C'est assez incroyable. Il y a une croix verte de la pharmacie qui indique plus 7 degrés et 7h33. Et puis un peu plus loin, il y avait une petite guérite avec une petite lumière à l'intérieur et puis deux hommes qui attendaient. Et derrière leur vitre, derrière la vitre, il y avait une phrase photocopiée sur le mur. « Silence ou je vous fracasse le crâne ».
Ah oui.
Patrice, bonjour.
Bonjour.
On se trouve où là ?
Donc au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, au poste de sécurité incendie.
Vous protégez la culture du feu, de l'incendie ?
Voilà, c'est ça en fait, oui. On fait attention que la culture puisse continuer à vivre.
Et ne pas brûler.
Voilà, tous les jours. Voilà, c'est ça.
Vous êtes un pare-feu de la culture. Êtes-vous l'auteur de la phrase « Silence ou je vous fracasse le crâne » ?
Ah non, pas du tout. C'est une phrase issue d'une pièce, mais je ne sais plus laquelle. Une pièce qui a été jouée au TNP.
C'est pas la seule d'ailleurs, parce que sur votre siège, j'ai marqué « Je suis maître, je parle, allez, obéissez ».
Alors ça, c'est le siège du chef de poste en fait.
Ah oui, il y a beaucoup d'injonctions.
voilà, c'est ça.
Même si elle n'est pas de vous, est-ce que vous reconnaissez dans cette phrase « Silence ou je vous fracasse le crâne » ou est-ce que vous pensez que c'est un petit peu, peut-être un peu exagéré, qu'il y a d'abord moyen de débattre ?
Ah non, non, celle-là, oui, il y a moyen de débattre. Je me reconnais un peu plus dans la deuxième.
Qui est la deuxième ?
Je suis maître. Je parle, allez, obéissez.
Donc vous êtes un homme de pouvoir, Patrice, c'est ça ?
Patrice, oui, c'est ça, oui. De pouvoir, non, mais donneur d'ordre.
Oui, mais là, vous êtes... comment s'appelle le poste que vous occupez au poste incendie ? Comment...
Alors moi, je suis chef d'équipe de sécurité incendie.
D'accord, donc j'ai l'impression que c'est plus le mot « chef » qui vous plaît dans cette appellation ouais. que la sécurité incendie. Vous avez combien d'hommes sous vos ordres, Patrice ?
Alors, ça peut aller jusqu'à 5 ou 6. Aujourd'hui, il y en aura un, mais ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 quand il y a notamment, comme ce soir, deux pièces de théâtre qui se jouent.
Vous êtes officier de gendarmerie ?
Ah non, pas du tout, non.
De pompier ?
Non, 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 non plus. C'est un métier différent de celui des sapeurs-pompiers.
Comment ça se passe avec vos gars, par exemple ? Vous me dites que vous aimiez bien que ça obéisse. Comment vous leur parlez ? Allez-y. On imagine que c'est nous, là. Il y a Atmen, Christophe, Jacques Souvent. Il y a une réunion de vos 6 gars, là. Comment vous leur parlez ? Au poste incendie de Villeurbanne.
Alors, après nous, entre nous, ça se passe très bien. On donne simplement des indications, des consignes.
C'est plus des conseils. Hein.
Voilà, oui.
C'est ça,
voilà,
Bon, attendez, comment vous avez dit à votre collègue de partir ? Allez, vas-y, va faire la ronde, moi je fais l'interview.
Voilà, c'est ça, pour être tranquille. Non, non, en fait, dans notre équipe, on s'entend bien. Heureusement, parce qu'on est obligé de. Il faut qu'on travaille ensemble et qu'on agisse ensemble en cas de problème.
Il y a eu des alertes au feu au Théâtre Populaire de Villeurbanne récemment ?
Pas du tout, non. Ça fait 5 ans et demi que le théâtre a rouvert après une restructuration. Pour l'instant, on n'a jamais eu de soucis.
Ça vous manque ? Vous êtes un peu comme un soldat sans guerre ou un paysan sans champ ?
Ah non, en fait, ça veut dire qu'on fait bien notre travail en amont.
Ah, vous allez voir les gars qui pourraient mettre le feu et vous leur dites, dis donc, pas de feu ou je te fracasse le crâne et voilà, obéis.
C'est ça.
Parce qu'on les connaît, les fouteurs de feu. On les connaît bien. Merci, monsieur. C'est souvent des gars comme toi, Ahmed.
C'est-à-dire.
Parce que, oui, je suis français.
Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ?
J'ai un dérapage d'extrême droite. C'est une maladie que j'ai. Je prends des pilules pour ça.
Vous avez l'œil, les gars. Attention.
Merci, Patrice. Merci, Jacques Souvent. Voyez, Atmen. Pas d'ordre, hein. Non. Juste des conseils.
Non, pas d'ordre.
Des conseils, pas de directives, pas d'ordre.
Oui, chef.
Voilà, à tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Ils arrivent, ça débat, les cafés fument. Thomas Baumgartner, nous sommes maintenant avec Jean Stern, le rédacteur en chef de La Chronique, le magazine d'Amnesty International France.
Voilà, absolument. Amnesty International, il faut le rappeler quand même, c'est une ONG qui milite en faveur des droits de l'homme partout dans le monde, avec des antennes dans différents pays, dont la France, évidemment. Et donc, Jean Stern, bonjour.
Bonjour.
Vous vous occupez particulièrement de ce mensuel qui s'intitule donc La Chronique d'Amnesty International. C'est le numéro 363 qui est paru il y a quelques jours.
Qui ne rajeunit pas.
Voilà, pour un mensuel. Et qu'on trouve, vous, d'ailleurs, la chronique, on le trouve.
La chronique, on le trouve par abonnement ou on le trouve sur le site. On peut le consulter en téléchargement en faisant la demande, puisqu'il est réservé théoriquement aux adhérents et au réseau d'Amnesty.
Et oui, on adhère à Amnesty. La chronique de février qui fait sa couverture sur les prisons, l'état des prisons en France, le cas des détenus en France. On va en parler, mais avant ça, il y a eu un rapport il y a quelques jours qui s'est retrouvé dans la presse, à droite à gauche. Un rapport d'Amnesty International en tant qu'ONG internationale et qui parlait en particulier, qui mettait en lumière le cas d'une prison à 30 km de Damas en Syrie, qui est la prison de Saïd Naya, qui était plus qu'une prison, un lieu d'exécution.
Absolument, un lieu d'exécution. Vous savez qu'Amnesty mène des enquêtes au long cours, hein, c'est donc des enquêtes pratiquement journalistiques, 84 témoins, plusieurs mois d'enquête avec des chercheurs basés à Beyrouth, donc très près évidemment de ce terrain-là. Et ils ont découvert que cette prison était un lieu d'exécution de masse, en fait, hein, puisque selon les chiffres, on en est sur 4 ans entre 5, 6 et 13 000 morts, c'est-à-dire pratiquement 7 exécutions en moyenne tous les jours, et des exécutions avec des procès, mais des procès évidemment extrêmement courts, hein, des procès qui duraient moins d'une minute, où le juge demandait « Êtes-vous coupable ?» Vous répondiez « Oui, vous étiez condamné à mort », vous répondiez « Non, vous étiez condamné à mort ». Donc là, c'est un lieu d'exécution de masse, évidemment, tragique, avec en plus des pratiques atroces que révèle ce rapport, des gens torturés, des viols collectifs, des gens torturés juste avant d'être pendus, des pendaisons lentes, comme on dit, où on s'efforce que la personne ne meure pas instantanément, mais prenne 10 minutes à mourir. Enfin bref.
Ça, ce sont des témoignages de gens qui de rescapés de cette prison.
Oui, comment... absolument. Des témoignages de rescapés, des témoignages d'anciens militaires, des témoignages d'anciens juges.
Des deux côtés, des militaires
sûr,
aussi. Qui ont...
Oui. Ce qu'on découvre aussi à travers ça, hein, c'est que la Syrie n'est pas évidemment monolithique. C'est aussi un pays où il y a des gens qui ont souffert dans cette prison, des jeunes. Quand on voyait les vidéos, ça m'a beaucoup frappé. C'est des gens qu'on, si j'ose dire, qui ressemblent à vous et moi. Qui sont des actifs et qui ont été arrêtés souvent pour rien, sans raison, simplement par des liens avec telle ou telle fraction éventuelle d'opposition ou simplement en fonction de leur opposition au régime, ce qui était de toute façon le cas de la majorité de la population syrienne ces dernières années,
donc
évidemment.
Vous regardez énormément de vidéos, vous recueillez des témoignages, donc oui, vous devez...
Oui. Cette prison-là existe toujours.
C'est pas toujours marrant. Pas, oui.
Je veux qu'on parle de France, Thomas.
Oui, d'accord. Et ben, justement, c'est le sujet. C'est dingue, c'est le sujet justement
parce
de
que
de
ça me fascine, moi, depuis toujours, j'entends les mêmes choses, on entend les mêmes choses, par exemple sur les baumettes ou sur plein de prisons, de centrales ou de maisons d'arrêt. Sur la surpopulation, on entend chaque fois la même chose. On a l'impression que rien, en 10 ans, 20 ans, 30 ans, rien n'est fait. Pourquoi ? Est-ce que c'est une volonté politique de faire une sorte de double peine, c'est-à-dire d'être sûr que ça se passe très mal ? Ou est-ce que c'est de la paresse ? Ou est-ce qu'on se renvoie
non.
le
Il y a deux choses. Hein. D'abord, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé en 30 ou 35 ans. Au contraire, il y a de plus en plus de détenus dans notre pays. C'est-à-dire que les proportions de détenus ont considérablement augmenté. On était à 26 000 détenus en 1975. On est à plus de 70 000 aujourd'hui.
Donc pour combien de places ?
On est sur un taux de surpopulation à peu près moyen de 117 %. Mais en réalité, ça dépend des centrales ou des maisons d'arrêt. Dans les maisons d'arrêt, on peut monter à des taux de surpopulation de 140, voire 180 %. Donc on est là. Mais ce qui s'est passé en réalité depuis 35 ans et qui a aggravé la situation des prisons, c'est d'abord la politique répressive, c'est d'abord les nombreuses lois qui font qu'on vous envoie en prison, si j'ose dire, pour un oui, pour un non. Didier Fassin le dit très bien, il vient d'écrire, c'est un ethnologue et un sociologue qui vient d'écrire un livre...
Et médecin d'ailleurs, parce que la question du soin n'est pas anodine.
Qui a travaillé sur le sida en Afrique du Sud notamment, qui est un type tout à fait remarquable. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle Punir et il dit maintenant on vous envoie en prison pour rien. C'est-à-dire on vote des tas de lois, prison, 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 prison. Et ça évidemment, ça crée un cadre où on n'a pas suivi. D'autant plus que la France a quand même comme caractéristique d'être au 27e rang européen pour l'investissement au ministère de la Justice. C'est-à-dire que le ministère de la Justice est un ministère pauvre, négligé, dégradé, et au fond, d'une certaine manière, l'État est assez indifférent à tout ça.
Est-ce que la question de la politique par rapport à ça, la politique même politicienne, est importante ? C'est-à-dire que se saisir de la question des prisons, de l'état des prisons et des conditions de détention des prisonniers, en fait, ce n'est pas porteur politiquement.
C'est absolument pas porteur politiquement. Et pourtant, ça crée des drames sociaux dont on n'imagine pas l'ampleur. Il y a une chose qui nous a beaucoup intéressés dans l'enquête qu'on publie, c'est la situation des familles, des proches. Très souvent, l'emprisonnement de quelqu'un, ça signifie aussi la perte de revenus, bien entendu. Un salaire en moins. Et donc, très souvent aussi, la personne se retrouve détenue à 400 ou 500 kilomètres de son domicile, ce qui veut dire des frais considérables pour aller les voir, un trajet en train ou même en blablacar, une nuit d'hôtel, enfin, etc. Et donc, économiquement, c'est devenu de plus en plus difficile, y compris pour les familles, d'accompagner les prisonniers, de voir son ami, son mari, son copain, etc. etc.
Comment on peut sortir de ça, cette idée un peu toute faite que la gauche
serait du côté des coupables et la droite du côté des victimes, qu'il faut pas trop s'occuper de ceux qui ont été condamnés, d'opposer toujours les uns aux autres au lieu d'essayer de les réconcilier.
Je crois très honnêtement qu'on peut pas opposer la droite et la gauche sur cette question-là. Je pense
non, mais ils se renvoient beaucoup ça les uns les autres.
Oui, mais en réalité, c'est plus une vision de la société basée sur la répression ou une vision de la société basée à la fois évidemment sur la prévention, mais aussi sur l'éducation et pour faire de la prison, parce que c'est possible. Hein. Il y a quand même toutes sortes d'expériences à travers le monde où on fait de la prison un lieu de réhabilitation sociale, un lieu d'éducation, un lieu de professionnalisation, un lieu aussi de guérison. Hein, parce qu'il faut savoir que beaucoup de prisonniers arrivent avec une santé dégradée en prison. Beaucoup de prisonniers sont séropositifs, beaucoup de prisonniers ont des hépatites. C'est 1 sur 20 quand même en France, hein, les hépatites. C'est donc un chiffre vraiment très considérable. Et donc aussi, pouvoir par exemple profiter, si j'ose dire, du séjour en prison pour soigner les gens, pour s'en occuper, pour les prendre en charge d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel et tout, serait déjà une grande mission qui, en réalité, ne coûterait pas beaucoup. Hein. Il faut vraiment de la volonté politique. Or, on n'a pas cette volonté politique. Hein. On n'a pas cette volonté politique, par exemple, d'investir tout simplement dans les lieux de santé à l'intérieur des prisons, de payer correctement les professionnels, parce que ce n'est pas facile pour un médecin, pour une infirmière, pour un personnel de santé, de travailler dans une prison. Évidemment.
Et puis il y a la question de prévenir la récidive. Il y a quelques pistes dans le dossier de la chronique, Jean Stern, donc de cette revue d'Amnesty International, notamment faire en sorte que toutes les peines de moins de 2 ans, ce qui concerne 80% des détenus, hein, de ces 70 000 détenus dont vous parliez, qu'on glisse ces peines-là vers des formes alternatives de peines pour désengorger le lieu, parce que c'est quand même une histoire de surpopulation en grande partie. Il y a évidemment cette citation d'Albert Camus, une société se juge à l'état de ses prisons, qu'on trouve dans ce dossier de la chronique d'Amnesty International. C'est le numéro de février, ça fait le tour d'une question qui ne sera pas au centre de la campagne présidentielle, qui n'est pas, mais qui pourrait être éventuellement abordée par ceux qui seront au pouvoir, qui se gèrent sans doute au milieu d'un mandat plutôt qu'au début.
Espérons-le, en tout cas, ce que je constate, c'est que la réaction des militants d'Amnesty, qui sont nombreux en France, il y en a 60 000 et tout, sur cette question des prisons, à la fois à l'étranger et en France, est une réaction très positif, les gens ont envie de s'investir sur le sujet. Je suis très très frappé, le numéro est sorti il y a quelques jours, j'ai beaucoup de courriers, beaucoup de mails, beaucoup d'interrogations, et ça prouve que quand même cette question qui est un peu taboue, qui est un peu cachée, qui est un peu honteuse pour la société française, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est une tâche sur la société française, et bien malgré tout, elle intéresse les gens et elle donne envie de se mobiliser pour essayer de régler ce problème-là qui est atroce.
Est-ce qu'il y a une mesure, par exemple, qui serait assez simple à prendre et qui changerait la vie quotidienne en prison ?
Oui, absolument. La mesure, par exemple, est d'augmenter le nombre de sessions de formation, d'augmenter le nombre de promenades. Il y a beaucoup de détenus qui passent 22 heures sur 24 dans leur cellule. Il n'y a que 2 heures de sortie. Si déjà il pouvait y avoir 4 heures de sortie, si déjà il pouvait y avoir des formations collectives, si déjà il pouvait y avoir des ateliers. J'ai des amis, j'ai rencontré des gens qui travaillent en prison, qui font des ateliers d'écriture, des ateliers de formation. Et ça,
c'est l'ennui.
Oui,
l'ennui.
Dès qu'on combat l'ennui, ça va mieux. Hein. Ou dès qu'on trouve des solutions pour combattre l'ennui, évidemment, ça va mieux.
Merci Jean Stern. Ça, c'est le dossier s'appelle d'ailleurs Les prisons de la honte.
Oui, je crois que c'est un titre qui est justifié. Hein.
Et on peut saluer nos auditeurs qui nous écoutent en
prison. Oui, il y a des auditeurs qui nous... Et j'ai appris que sur certaines radios, il y a des émissions spéciales, comme sur Radio Galère, Parloir Libre, où les prisonniers peuvent se parler, ou leur famille à travers la radio. À bientôt, merci.
À bientôt, merci.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
J'avais chanté ça à l'époque. Andrea, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de venir dire une poésie à la radio ?
Maman, elle avait dit plus petite. Et
elle a dit plus petite, j'ai pas compris. Excuse-moi.
Elle a dit plus petite ce poème-là.
Ah oui, c'est un poème que ta maman t'avait dit.
Elle me l'a dit. Elle l'a dit à la radio quand elle était petite.
Ah bon, ta mère, elle avait déjà dit un poème à la radio quand t'étais enfant. C'était à quelle radio?
Sucre d'orge.
Radio Sucre d'orge.
À Dourdan.
À Dourdan, d'accord. Et alors chaque génération de la famille, toi aussi, un jour tu auras une fille, tu crois ou pas?
Je sais pas.
Mais tu pourras avoir une fille qui dira ce poème à la radio, et ça sera encore moi. Je serai Jacques Martinet à l'époque, en Jacques Martinisation. C'est quand on... Et dis-moi, alors tu t'es préparé, tu as écouté d'autres enfants dire des poèmes?
Oui.
Mais tu avais, ça t'a, quoi, tu as trouvé que c'était joli, ça t'a fait rire, tu avais le trac pour eux?
J'ai trouvé que ça donnait envie de le faire.
D'accord.
Et maman elle m'a demandé si je voulais le faire et je lui ai dit oui.
Et te voilà avec tes petites, tes très jolies lunettes rouges. Tu as quoi? Tu es myope? Tu es astigmate? Tu es quoi?
Je sais pas.
Alors bah, regarde-moi maintenant. Enlève tes lunettes. Est-ce que comment tu me trouves maintenant sans les lunettes?
Je vois moins bien.
Voilà, bah, c'est ma chance. Comme ça, tu trouves que je ressemble à un gentil papa, tandis qu'avant je avec des lunettes à un monstre barbu de mauvaise humeur. Alors, ma chérie, tu peux les remettre, tes lunettes, parce qu'elles sont vraiment
jolies. C'est bien de le reconnaître.
Dis donc à tout même. Vous savez, parfois, ça nous arrange à nos grands âges quand on nous voit moins bien. Voilà, on a l'air plus gentil. Non, non, mais alors, Andréa, on t'écoute dans ton poème, alors.
Si tu trouves sur la plage un très joli coquillage, compose le numéro Océan 00. Et l'oreille à l'appareil, la mère te racontera dans sa langue des merveilles que papa te traduira. Claude Roy.
Très 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 joli, bravo, on t'applaudit.
Très très beau.
Hein, oui, qu'est-ce qu'il y a, Eugénie?
C'est drôle, on l'avait eu à Brest justement.
Ah, il y a un enfant à Brest qui nous avait dit, je vais essayer de le composer ce numéro Océan. Attendez, je le fais sur mon téléphone. Océan, ça fait 6. Océan 00. Océan. Oh, c'est le truc, c'est le 6. 00. C'est ça, Océan 00?
Oui.
Alors viens, on appelle ensemble. On va voir si ça marche.
Voilà. Orange de sa forme que le numéro demandé n'est pas attribué.
Alors tu vois, les poèmes mentent.
Parce ben que oui.
Bonjour. Orange de sa forme que le numéro demandé n'est pas attribué.
Tu vois, je viens de faire Océan 00. Alors peut-être que je n'ai pas l'esprit poète, je suis trop concret.
Mais c'est dans un coquillage.
Ah,
mais oui.
C'est toi qui as raison. Si je le faisais dans un coquillage. Est-ce que tu penses que la vie, c'est mieux dans la poésie qu'en vrai?
Je ne sais pas.
Est-ce que tu aimes bien les contes de fées aussi?
Plus ou moins.
Est-ce qu'il y en a, ou des films, est-ce que tu as un conte ou un film préféré?
Oui.
C'est quoi?
La Mélodie du Bonheur, c'est un de mes films préférés.
Ah, dis donc.
Oui.
C'est bien.
Admen va vous chanter la chanson après. Tu aimerais bien vivre dans la Mélodie?
Edelweiss.
Mais plus loin du micro. Oui.
Ah, pardon.
Faites comme un bruit.
Oui, fond. D'accord, ok.
Merci, mon vieux. Par là, là. Est-ce que... Tu aimerais bien vivre? Tu le connais aussi?
Oui.
Vas-y, chantez-le ensemble, alors. Andrea et Atmen Kelly dans La Mélodie du Bonheur.
Vas-y.
1, 2, 3, 4.
A, B, C, O, I, E, D, E, L, S, N, N, O, P, na, 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 na. Non, mais je connais
Edelweiss. Non, mais vous l'empêchez. Oui. Vous la gênez.
Oui. Je connais pas la mélodie. Je connais Edelweiss.
Armel, vous l'avez déjà trouvé.
Il l'a trouvé.
Grâce à Eugénie Pomayou.
Est-ce que
ça lui fait plaisir, Andrea?
Écoute, mon ami. Il y a des paroles.
Ouais. Edelweiss, tu dis trois fois Edelweiss.
Si, voilà, un garçon est amoureux de vous, mademoiselle, demandez-lui d'aller cueillir l'Edelweiss là-haut, sur la montagne et de vous le rapporter. C'était l'instant Heidi. Merci Andrea, on te laisse aller à l'école sur cette jolie musique et un jour nous habiterons tous dans cette maison.
Dans la mélodie du bonheur.
Moi c'est un cauchemar la Mélodie du Bonheur. Quand j'étais enfant, mon père devait nous emmener voir Le Jour le plus long, il s'est trompé de salle. On était avec mon frère, on était deux garçons. On avait une sortie entre mecs avec mon frère, mon père et mon frère. Et au lieu d'un Jour le plus long, un film de guerre et tout ça, sur le débarquement en Normandie, on s'est retrouvé dans un film de grossesse. Je me suis habillé en fille et j'ai joué à la poupée jusqu'à l'âge de 32 ans.
Commencé
salut Andréa, très très bonne journée à toi. Gros bisous ma belle, bravo.
Oui, d'accord, ok.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très très près.
Plus près de toi.
Très 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 près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird. Pouette pouette la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
On va avoir plein de nouveaux jingles. Catherine Lagarde est en train de nous fabriquer dès la semaine prochaine.
Ah bon?
Oui, je vous l'apprends, Armel, dont le générique de l'émission.
Mais elle était pas en FMI, non?
Si,
Catherine Lagarde.
J'ai pas compris ce que t'as dit.
Bah oui, tu viens de dire Catherine.
Catherine Lagarde, t'as dit.
Mais comment elle s'appelle?
C'est Christine Lagarde au FMI.
C'est, vous embrouillez Christine Lagarde, qui était avec qui vous êtes sortie en 82.
Oui.
Et Catherine Lagarde, qui fait qui est un génie de l'habillage sonore. Et il y a une version du générique de l'émission sifflée par Tito, qui est de haute qualité, vous verrez. Ah, le journal
vous
de
nous
8 heures,
j'ai l'eau à la bouche.
Le journal de 8h01 de Marie Bonisseau.
Radio Nova.
Theresa May, la première ministre britannique, a le feu vert des députés pour déclencher le Brexit hier soir. Le projet de loi a été adopté à une large majorité par la Chambre des communes. Il doit maintenant passer devant la Chambre des Lords. Theresa May a promis d'entamer les négociations qui devraient durer 2 ans avec Bruxelles avant la fin du mois de mars. Le monsieur immigration de Donald Trump. Confirmé au poste de ministre de la Justice, les sénateurs républicains ont fait bloc pour valider la nomination de celui qui a inspiré le fameux décret anti-immigration, décret toujours suspendu, je vous le rappelle, en attendant la décision de la Cour fédérale d'appel de San Francisco. En France, le soutien à Théo prend de l'ampleur. Hier soir, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées à Paris et à Nantes pour dénoncer l'agression de ce jeune d'Aulnay-sous-Bois. Dans cette affaire, un policier est mis en examen pour viol, 3 autres pour violence volontaire. À Aulnay, après 3 nuits marquées par des incidents, le calme est revenu hier. 5 personnes ont été jugées en comparution immédiate au tribunal de Bobigny. 2 jeunes ont été condamnés notamment à 6 mois ferme pour embuscade aux forces de l'ordre. On l'appelait le père de la pilule et il n'aimait pas cette formule, paraît-il. Lucien Neuwirth a les honneurs du Sénat aujourd'hui, qui fête avec un tout petit peu d'avance les 50 ans de la loi Neuwirth, celle qui autorise la contraception. Pour ça, il a fallu à l'époque convaincre le général de Gaulle. Vous avez donné le droit de vote aux femmes, aurait dit Lucien. Donnez-leur maintenant le droit de maîtriser leur fécondité.
Lucien, vous l'appelez Lucien Neuwirth. Vous êtes intime avec Lucien Neuwirth.
Ben non, mais il m'a fait beaucoup de bien. Le coït,
et c'est le professeur Beaulieu, l'inventeur de la pilule. C'est lui qui vous a fait du bien.
C'est Lucien, le professeur.
Saint homme.
Puisqu'on parle de
ça. Oui, bravo.
Il y a Méné qui parle une fois, mais il a tous dit... les 3 mois.
Ouais, mais attention.
Oui, mais saint homme, c'est-à-dire vous liez l'idée de la contraception choisie et décidée à la religion catholique, ce qui n'est pas exactement la même famille d'idées et de façon de voir la reproduction.
C'était beaucoup plus simple que ça, hein, bon, dans mon esprit.
Sortez du journal.
Pardon.
Le coït n'est plus automatique pour interdire un film au moins de 18 ans. Un décret publié aujourd'hui dans le journal officiel assouplit les critères de classification. Dans le code du cinéma jusque-là, il était écrit que toute scène de sexe non simulée entraînait l'interdiction aux mineurs. Mais après les attaques d'une association proche des catholiques traditionnalistes contre les films comme Love de Gaspard Noé et La vie d'Adèle d'Abdel Latif Kechiche, le ministère de la Culture avait décidé de supprimer cette mention. Voilà, c'est chose faite.
Je n'en veux plus dans le journal de 8h30 de cette info. Si, elle
m'amène
rien.
Atman est venu me voir pour me demander
Atman,
de la répéter.
Atman est illégal ici.
Je sais. J'ai embrassé les Moi, je dois partir normalement.
S'il y avait le mur entre la France et le Mexique, on espère, il serait au Mexique. Hein, mon petit Trump.
Allez. Bon, mais je ne sais pas si le football
on
est autorisé.
On la fera plus cette info.
En football, les Marseillais ont battu Guingamp hier soir, 2-0. But, je précise, de Bafétimbi Gomis et Dimitri Payet, qui réussit donc son retour au Vélodrome.
Payet.
On dit Payet.
Payet.
Mais qui dit Payet?
On dit Manu Payet, par exemple.
Comment?
On dit Manu Payet, par exemple.
Du tout. Mais non, si, parce que on ne dit pas que vous allez acheter une baguette, j'ai des paillettes trop chères.
Non, mais ça vient
une
des... Ça vient
vous
des...
dites une baguette,
c'est la prononciation des îles.
Une fourchée, une baguette. C'est 2T ou c'est ET?
ET.
Excusez-moi, on dit Payet, et il s'y fera. Et Antoine, vous dites Guzman?
Guzman?
Griezmann. Voilà. Alors, on a fini
oui,
le journal.
Est-ce que c'est fini sous un
J'allais parler de l'OL, mais je pense que je vais mal le prononcer.
4-0 contre Nancy. Vous êtes dans la rubrique mondaine d'Atman Khelif. Là, Marie, restez avec nous.
Oui.
Atman Khelif, oui. Votre rubrique mondaine.
Oui, parce que c'est grave ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est grave, c'est qu'on ne parle pas de ce qui se passe en ce moment à Courche.
Courche.
Oui, à Courche. À Courchevel.
Courchevel, qu'est-ce qui se passe?
Et à Méribel.
Qu'est-ce qui se passe, mon
chéri? Il y a la Champagne Shower qui a refait son retour.
Qu'est-ce que c'est?
La Champagne Shower, c'est des petites Bulgares qui sont au Boutin, dans la neige, et qui crie « Champagne shower !» Alors tout d'un coup, des milliardaires koweïtiens les arrosent.
Pourquoi koweïtiens?
Parce qu'ils sont...
Il n'y a plus de Russes, hein, à Courchevel, je crois.
Les Russes ne sont plus là, mon chéri. Le pognon est au Koweït, au Qatar.
Ah bon,
eh oui.
D'accord.
Alors, champagne,
elle crie donc, oui, alors.
Elle crie comme ça. Ah,
Champagne shower. Donc on leur balance des kilolitres de Dom Pérignon très cher, quoi, que personne n'a jamais bu.
Oui.
Et à fond, sur la, ça, et ils font des espèces de statues de neige. Les filles restent et voient si le champagne glace sur eux.
Ouais, non, oui,
voilà, ils s'en passent. Oui. Et après, tout le monde s'en va pour 1600 euros en hélicoptère sur les pistes.
Oui.
Et c'est celui qui descendra le plus vite.
Admettons.
Qui arrivera sur la piste pour danser et qui dansera avec la plus belle.
Et voilà. Donc.
Et donc tout ça est observé.
Oui.
Tout ça est observé par des gens de Mary Bell. Vous voyez, des gens des cantonniers, tout ça et tout, qui se font chier à voir tout ce pognon gaspillé sur leur piste. Voilà.
C'était la rubrique mondaine d'Edmund Kelly.
Et tout de suite, j'ai envie de dire. Champagne shower!
Oh, mais il y a même une petite chute. C'est bien foutu. Voyez, Ménette, oui. Christophe Ménette, prenez-en de la gueule. On rejoint Bouchta ou Jack Souvent? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Bouchta à Marseille.
Bouchta.
Mon chéri, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas parlé?
Je crois que c'était fini entre nous, mon poussin.
Mais pas du tout. Tu adorais. Les gens nous demandent beaucoup de tes nouvelles. Le correspondant marseillais Bouchta, ça fait partie des classiques de l'émission.
Ah, ben mon poussin. Il était bien ce Jean Stern là, que tu as parlé de prison.
Mais oui, parce que toi, c'est toi qui m'avais parlé de Radio Parloir, je crois.
Oui, c'est ça, Radio Parloir, c'était Radio Galère, Radio Gazelle et tout ça. Là. Déjà, ils appelaient directement, allô, fais ci, fais ça, prends un avocat, fais ci, fais pas ça.
Donc ils se parlaient, les prisonniers pouvaient parler à leur famille à travers la radio.
Voilà, tous les dimanches, à 10h le matin, ils appelaient, les familles étaient en direct avec la mère, la grand-mère, les petits-enfants. « Papa, je viens te voir lundi, papa, papa !» Voilà, des histoires comme ça, de cuisine, des fois c'est un peu de business, ils parlent en code.
Ah oui.
Avoir l'avocat, fais ci, fais ça. Voilà. Voilà, mon poussin. Cette semaine était bien chargée.
Pardon, j'aime bien pas te relancer, parce que dans la conversation, dans la vraie vie, on n'est pas à la radio. Il peut y avoir des petits silences, des petits coups de mou, des voilà. Et c'est bien.
Ouais.
C'est bien. Comme
écoute,
si on n'est pas. Oui.
Mon poussin, cette semaine était chargée, je te dis pas. Grave. J'ai une semaine, on dirait que je partais au bled tellement que j'étais chargée.
Qu'est-ce qui s'est passé?
De tout. J'ai un couple en face de chez moi, là, parce que j'ai le café, là, le bar familial.
Oui.
Voilà, bon, bref. Et il y avait un couple qui était en bagarre, juste avant qu'ils ferment le bar. Et ça finit dans la route. La femme qui crie, qui prend la clé de la voiture comme si c'était une lame gilette, elle veut se couper les veines. Mais c'était même pas une clé, c'était une carte, tu sais.
Oui, mais toi, tu étais à ta fenêtre ou tu étais là-bas?
Moi, j'étais pas à la fenêtre, j'étais en train de cuisiner. J'étais en train de faire un tagine au poulet aux olives.
D'accord.
Voilà. Et j'entends crier, elle me faisait de la peine, la fille. Finalement, je suis sorti, j'ai fait rentrer. Mais vraiment, c'était pas facile à la maîtriser.
Elle voulait s'ouvrir les veines avec une carte bleue?
Oh, non, pas carte bleue, tu as vu la carte des voitures, là, automatique.
Ah oui, oui.
Voilà, je vais me tuer, tu vas voir ma mort à la conscience, j'en ai marre. Elle n'en peut plus parce que son mari, c'est un grand responsable de supermarché, là, grand supermarché. Et depuis 2-3 ans, il la rend folle, voilà, il rentre tard, il adore le coco vin, tu sais, t'as compris, voilà.
Quoi, de la cocaïne, tu penses? Il se drogue beaucoup, hein?
Un petit peu. Tu sais, quand tu tiens un grand supermarché, discount, mon beau. Ah bah,
tu es obligé. Tu es obligé. Oui.
Forcément obligé.
Donc elle est là, elle se réfugie parce que son mari a une vie un peu trop mouvementée et elle essaye de s'ouvrir les veines avec la carte d'ouverture de sa voiture. Et,
voilà,
et elle se réfugie chez toi. Tu lui as remonté le moral comment alors?
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de te cuisiner un bon tagine. Elle a senti l'odeur, ça l'a un petit peu calmée. Après, je lui ai allumé un peu du l'encens, tu sais, pour le lever le mauvais œil. Ça l'a calmée aussi, on dirait qu'elle était ensorcelée. Et après, d'un coup, j'entends taper à la porte.
Aïe.
Comme j'avais de la poignée, elle est cassée en ce moment, c'est ma jeune mère. Je peux qu'appeler l'office HLM pour qu'il me charge la porte, ils ne viennent pas. Bon, bref. Et j'entends taper à la porte, c'était 4 flics devant la porte.
Ah bon?
D'un coup, je me suis vu enlever sous bois, je me suis mis à 4 pattes. J'ai rien compris.
Oui.
Après, il tape, j'ai sorti mon passe que j'avais dans ma poche, là, du peignoir. Et j'ai ouvert, ils ont eu peur, parce que tu sais, le passe, une poignée, c'est comme un pistolet. Voilà. Alors je ouvre, ils se sont calmés, ils me disent, allez où? Je dis, allez là. Ils sont rentrés, ils ont vu que la fille était maîtrisée et tout ça, que j'avais mis un peu du l'enfant pour la calmer et tout. Ils me disent, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, vous laissez suicider avec la carte. Il me dit, je vais voir les mains. Il a regardé ses mains, il a vu 2 traces rouges. Il a dit, oh, c'est pas grave. Vous maîtrisez bien l'affaire. Après, je lui dis, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un couple, le mari est devant la porte, il est énervé. Ils sont ressortis, tout va bien.
Et le mari avait été là, attendez?
Oui, il attendait, puis j'étais content. Elle m'a dit merci la famille. Wallah, tu viens à Carrefour, il n'y a pas de soucis. Je te fais passer 2 chariots.
Et alors, tu y es allé ou pas?
Non, je vais aller dans la semaine.
Alors, tu y vas, tu nous appelles dès que tu y es allé, que tu l'as recroisé.
Ça va me pousser.
Gros bisous, Bouchta.
Voilà. Ça va, je t'embrasse. Après, bonne je raconte l'histoire d'un travelo là qui est venu me voir là, cette semaine.
Avec plaisir, hors antenne. À tout de suite, on t'embrasse avec plaisir. Salut, bouge pas.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Attention, attention. Le dispositif s'accélère. Bintou Simperet vient de nous rejoindre. La prêtresse de Neo Geo. Cécile Gentilin, qui est ma coiffeuse souvent au cinéma. Et là, on va.
Eh ben, dis donc.
On va parler cheveux. Asseyez-vous là. Mais nous avons Jack Souvent qui est à Villeurbanne. Je vous explique tout. On n'a pas son petit jingle ?
Attends,
bouge pas, regarde.
J'adore. Jingle, tut tut. Ah bah, elle est où, Jack Souvent ? Tut tut tut.
Tut tut.
Et je suis avec Carlos. Carlos, qui est surveillant. Enfin, sur votre maison, il y a une plaque émaillée. Il y a marqué surveillant. C'est une espèce de panoptique pour la voiture un peu bizarre.
Depuis combien de temps vous êtes ensemble ?
Bah là, ça fait un combien de temps ? Un petit quart d'heure ?
Ah oui,
une vingtaine de minutes. Ouais,
on l'avait pas vu venir, ça, oui.
Et on est passé devant la vitrine du Parti Socialiste qui a été caillassée cette nuit. Il y a encore les pavés par terre.
Pavés par terre, oui. Ouais, les glaces, elles sont complètement trouées. Mais bon, on a vu quelqu'un, apparemment. Ils se sont fait arrêter cette nuit, je crois.
Qui qu'en veut au Parti Socialiste à Villeurbanne ?
Oh, bah écoutez...
C'était Jean-Jacques Kéran, le maire de Villeurbanne du Parti Socialiste ?
Non, du tout.
C'était pas Jean-Jacques Kéran à l'époque ?
Ah bah à l'époque, oui. Non, mais aujourd'hui, c'est... j'arrive plus à savoir le nom de mon maire.
On ne les connaît plus parce qu'il était ministre, Jacques Kéran.
C'est mon président.
Ah bah alors.
C'est mon président de la société.
Vous disiez aussi que des fois, il y a eu des gens qui ont essayé d'emmurer le...
Oui. Un matin, je me lève pour aller travailler. Et là, je vois, ils n'ont pas caillassé, mais ils ont construit un petit mur, un petit muret devant la porte d'entrée.
C'est pour pas qu'on rentre ou pour pas qu'on sorte ?
Un petit peu les deux, je crois.
Il y a ce très beau film de Philippe Clerc, Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, qui a peut-être inspiré aussi...
Non, mais c'est original.
Carlos, comment il est le siège du Parti Socialiste à Villeurbanne ? C'est bien achalandé, c'est soyeux, c'est austère, c'est comment ?
Bah pour l'instant, non, c'est un petit peu, il y a un peu des débris, mais bon, moi, honnêtement, je ne fréquente pas trop, mais bon, il est à côté de chez moi, donc...
Bon, bah on passe devant, oui.
Ce qui se passe, hein.
Il y a d'autres sièges, d'autres partis politiques, les Républicains...
Oui, la rue en face, là, il y a, je crois, la droite de Villeurbanne, je ne sais pas.
Et c'est plus des endroits où les gens se rencontrent pour une partie de cartes, pour être moins seul, vous pensez ou
comme
c'est...
je vous ai dit, je ne fréquente pas, moi. J'ai trop de travail.
Mais
Carlos,
qu'est-ce que...
il veut parler d'autre chose.
Ah, pardon, Carlos.
Je veux pas parler de ça, on avance, on voit laverie des canuts, libre-service, point fort, fichet, tout ça, c'est des boutiques.
Ah oui, c'est des magasins qui sont là depuis un petit moment déjà, oui.
Il y a une laverie, tout ça. Monsieur, vous avez trouvé votre horodateur ?
Ouais, merci, ouais, c'est sympa. C'est pas parfait,
Vous avez mis combien, là, dans l'horodateur ?
2 euros, ça fait cher quand même pour... Bah, une heure, mais je ne sais pas le temps que je vais rester, parce que je suis au dentiste, alors ça fait pas...
Oui, c'est compliqué de payer, ça va combien
Mais est-ce qu'on peut revendre ? Si le dentiste vous prend tout de suite...
Une demi-heure, ça peut être 45 minutes. Là, je préfère mettre un peu plus pour être tranquille.
Qu'est-ce qu'il a aux dents, ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il a aux dents ?
Vous avez quoi aux dents ?
Aux dents ? Bah, j'ai un appareil.
Ah, mais ne me montrez pas.
Mais si !
J'avais cassé les, alors il va m'enlever des racines. Et c'est... Ouais. Ah, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'âge. Hein. Bon. On arrive à un âge.
Gardez vos racines, monsieur, c'est mieux.
Ouais. C'est bien, merci, bonne journée.
Au revoir.
Alors là, ouais, c'était quelqu'un d'autre que vous avez croisé ?
Oui, pardon, c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il nous avait demandé avant le rodateur.
J'ai jamais vu un mec d'aussi bonne humeur en allant chez le dentiste.
C'est pareil, non plus.
Carlos, vous faites quoi là ce matin dans le quartier à Villeurbanne ?
Bah écoutez, moi, comme tous les matins, je suis sur mon secteur de travail, hein, je m'occupe de bâtiments, je suis responsable d'immeuble en fait, pour Est Métropole Habitat.
Et c'est-à-dire, vous faites quoi exactement ?
Bien, je fais tout en fait, on fait du nettoyage, on fait la gestion des travaux... des entreprises, des états des lieux.
Un peu, vous êtes un peu
je travaille dans le logement social, quoi.
Un peu le psychologue de l'immeuble aussi. Les gens viennent se plaindre, ils viennent vous voir.
Oui, un petit peu, oui, bien sûr. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, par exemple?
Oh, bah, c'est des réclamations, c'est classique. J'ai un problème avec les voisins, voilà quoi.
Alors, comment on fait quand il y a des guerres entre les voisins?
Alors, déjà, dans un premier temps, bah, quand il y a vraiment la guerre entre les voisins, on leur demande d'appeler la police. Autrement, bah écoutez, nous on a des services où des gens ils viennent pour essayer de discuter, de faire le lien quoi entre les locataires.
Et vous, Carlos, physiquement, vous êtes dissuasif ?
Je fais 1m92 et 105 kilos.
Oui, c'est bien. C'est bien. Quand les mecs d'1m92 parlent, ceux d'1m60 écoutent, on dit.
Non, je suis 1m70.
Mais surtout, moi, j'ai rencontré Carlos Edouard, si on a une minute, hein, vraiment une minute.
Oui.
Il habite dans une maison incroyable, où il y a marqué surveillant dessus. C'est un panoptique, il y a plein de fenêtres. Donc, c'était les surveillants d'époque qui devaient contrôler un petit peu tous les quartiers. Et je parlais tout seul et j'ai dit, oh, elle est incroyablement belle cette maison. Et je l'ai rencontré, il m'a dit, c'est la mienne.
Oui, c'est vrai. J'y suis là, c'est mon logement de fonction en fait, ça fait 20 ans que je suis dans ce logement de fonction, donc 20 ans que je m'occupe du quartier. Mais c'est vrai que c'est une très belle maison qui est assez photographiée, filmée, elle est un petit peu originale quoi. Elle date des années 30, elle est superbe quoi. Voilà.
Envoyez-nous une photo Jack, essayez de vous faire payer un café.
C'est fait.
À tout de suite, il y a Marie Missé qui est là pour nous délivrer. La
à tout à l'heure.
De ce matin. À tout à l'heure. Bintou, restez avec nous. On est en retard surtout. On va parler de Neo Geo ce dimanche, qui est spécial autour du producteur Jean Caracos.
Oui, qui est décédé le 22 janvier dernier et qui a produit toutes les musiques qui ont fait la base de Radio Nova quelque part.
À tout de suite, mais d'abord, bonjour Marie Missé.
Bonjour Edouard Baird.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour à tous. Vous le disiez tout à l'heure, en tout début d'émission, vous n'étiez peut-être pas là. Tsvetan Todorov, grand philosophe, sémiologue, né en Bulgarie, grandi en Bulgarie, s'est éteint le 7 février. Depuis, les hommages et les nécrologies se multiplient dans la presse. Aujourd'hui, c'est Le Monde qui s'intéresse aux penseurs et met l'accent sur les réflexions de ces dernières années. Fort de son expérience et de sa critique des systèmes totalitaires qu'il a mené tout au long de sa vie, il en était venu à critiquer également le régime démocratique. On lit dans Le Monde, donc, vouloir éradiquer l'injustice de la surface de la Terre ou même seulement les violations des droits de l'homme, instaurer un nouvel ordre mondial dont seraient bannies les guerres et les violences, est un projet qui rejoint les utopies totalitaires dans leur tentative de rendre le monde meilleur et d'établir le paradis sur Terre. Et puis il continue, il est possible de résister au mal sans succomber à la tentation du bien. Le Monde publie aussi un extrait de son prochain livre qui sera à paraître le 14 février, où il continuait justement cette réflexion. Il explique que c'est la chute du mur qui lui a ouvert les yeux sur les continuités entre les systèmes totalitaires et les systèmes démocratiques actuels, notamment dans cette fâcheuse tendance, je le lis lui, à se trouver un ennemi pas tout à fait humain qu'il faut combattre et si possible anéantir, mais à la place des capitalistes et des bourgeois, on trouve les islamistes et les terroriste.
Mais vous voulez dire que tout ça est dans le même sac que
tout ça Marie Missé est dans le même sac Todorov. Pour Tsvetan Todorov. Oui, alors il fait des nuances. Je vous invite à acheter son livre qui sortira le 14 février. Mais c'est ce qu'il dit mot pour mot. L'extrait se termine sur cette note. Constater les faiblesses de la démocratie ne signifie pas qu'on renonce à son idéal. Et ne plus renoncer à cet idéal, c'est ce qui a l'air d'être en train de se passer en Corée du Sud. Dans La Croix, un long article nous explique que ça y est, l'histoire de l'ennemi commun, qui pour la Corée du Sud n'est pas les islamistes, mais la Corée du Nord, cet ennemi commun dont la peur peut justifier tous les habits, ne marche plus sur la jeunesse et la vieillesse sud-coréenne. Cette jeunesse qui manifeste maintenant depuis des mois les tentatives de la présidente coréenne très en difficulté d'agiter le spectre de la Corée du Nord ne marche tout simplement plus. C'est absurde, lit-on. Tout le monde voit qu'elle utilise l'épouvantail. On dirait qu'on parle de l'histoire du roi tout nu. Après des décennies où le grand méchant Corée du Nord a servi pour tous les gouvernements sud-coréens en situation de crise, eh bien la stratégie est démasquée. On la voit. Le roi est donc tout nu. Nous sommes fatigués de la Corée du Nord, des histoires de missiles et de guerres. Ça, c'est un jeune de 24 ans qui s'exprime. D'autres jeunes fatigués, ce sont les Roumains. En Roumanie, la lutte anti-corruption a fait naître la société civile. Titre Le Monde, on lit que la population ne croit plus aux soi-disant stigmates du communisme pour expliquer les niveaux de corruption dans le pays. Laura Kövesi, la chef de la lutte anticorruption, est devenue une star nationale et c'est par cette lutte judiciaire qu'est arrivé le changement entre 1990 et 2005. Je cite, la corruption était partout, les oligarques s'enrichissaient, la presse l'écrivait. Pourtant, il ne se passait rien. Force est de constater que maintenant, il se passe quelque chose. Même si en lisant, et sans aucune arrière-pensée, je n'en pense pas plus, je me suis rappelé de l'année dernière, à la même époque dans la presse, où on parlait de ce procureur anticorruption au Brésil qui faisait un travail formidable et qui a en fait servi de marchepied au coup d'État qui a eu lieu un petit peu plus tard. Tout ceci nous amène à l'entretien mené par Libération avec l'Autrichien Conrad Becker, auteur du dictionnaire de réalité tactique, intelligence culturelle les contrôles sociaux. Un visionnaire dont les derniers mots dans l'entretien sont « C'est important aussi de ne pas être dupe de sa propre propagande. Je le dis à mes amis et à moi-même. Ce en quoi je crois aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans 5 ans. » Il dit aussi « Il est plus en plus difficile de distinguer la propagande de l'information. La propagande repose sur un système de croyances, ce qui est bien, ce qui est mal. » Un entretien à lire et qui rejoint très fort les propos de Tsvetan Todorov. À propos de l'économie de l'attention, par exemple, il dit encore, c'est-à-dire les stratégies pour capter notre attention au quotidien, notre temps de cerveau dispo, il dit donc « Cela touche aussi à mon intérêt pour l'illusionnisme, comment orienter l'attention, c'est uniquement une question de cadrage, pas une question de fait ou de fake, l'information, la propagande, une question de cadrage. »
Merci de nous avoir bien manipulé, Marie Bisset.
Moi,
j'en ai pas marre de la Corée du Nord. Vous imaginez ce que c'est utile, par exemple, pour Hollywood, quand on a marre de faire des films sur des méchants islamistes avec des bombes, tout à coup, on a un Coréen du Nord. Si.
Oui, mais vous n'êtes pas sud-coréen, Edouard. Peut-être que vous en auriez marre.
Si j'étais sud-coréen, peut-être un petit peu. Merci. Vous êtes une des rares journalistes qui arrive avec un article sur Tsvetan Todorov avec Grazia sous le bras.
Oui.
Vous créez le spécial cheveux. Je trouve que c'est très beau. C'est un panorama. C'est très complémentaire. Merci, Marie. Nous sommes maintenant. Vous vouliez mettre de la musique maintenant, Armel ?
Ah non, j'ai mieux
que ça, Edouard.
Non,
parce que je voudrais être avec Bintou.
Moi, j'aimerais beaucoup être avec Bintou, mais il faut qu'on écoute cette petite page de pub d'une minute.
Alors, je propose à Bintou. Bintou, est-ce que vous nous autorisez à mettre un peu de publicité ?
Je vous y autorise,
merci,
Edouard.
Merci, Dame Bintou.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il fait une chaleur dans cette émission.
Formidable, les toilettes de Radio Nova, une équipe qui passe le matin, ça sent la rose et le réséda, c'est vraiment très bien entretenu cette radio. Bonjour Bintou.
Bonjour Edouard.
Bintou, vous êtes la légende de cet établissement.
Oui, la doyenne en quelque sorte maintenant.
Non,
la légende.
La doyenne, ça voudrait dire un truc d'âge, mais la légende, c'est-à-dire que Néo Géo, ça a combien d'années ?
C'était 92, je crois.
92.
Le début, oui.
C'était déjà
1992,
le
1992, après Tchatchaboum, après différents. Le quart d'heure du cocotier.
C'est vrai, c'était ça les noms de nos
différents
émissions.
Différents épisodes Tap Tap du nom des taxis haïtiens. Il y a eu donc en 92 le lancement de Neo Geo, Nouvelle Géographie. Enfin, à l'époque, c'était en relation aussi avec un disque de Ryuichi Sakamoto, artiste japonais qu'on aime beaucoup, qui était sorti et puis qui faisait déjà des croisements avec des artistes comme Youssou N'Dour. Et voilà, qui correspondait bien à l'esprit de Radio Nova et de l'émission.
Donc ça, c'était les artistes que vous invitiez à l'époque ?
Voilà, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, un grand croisement de différents artistes et puis aussi d'écrivains maintenant, comme Patrick Chamoiseau, le Martiniquais, ou Magic Chantre Cherfi,
de la créolité.
Voilà, ou encore Emmanuel Dongala, le Congolais, puis toujours beaucoup de musique.
Et puis qui reviennent après toutes ces années, je sais que Youssou N'Dour est repassé vous voir il n'y a pas longtemps.
Exactement, avec son nouvel album.
Voilà. Ça fait un peu rêver,
toujours
j'imagine.
Toujours faire un petit coucou dans la maison Nova, c'est un petit peu leur maison. Hein.
Vous êtes relié au monde entier comme ça.
Exactement, c'est un gros paquebot qui se promène, porté par différentes belles musiques depuis quelques années.
Alors au début, ça devait être des vraies cartes postales. Maintenant, vous recevez des mails, mais avant, j'imagine que le courrier à Nova, il y a cartes postales pour Bintou, puis il y avait des paysages du monde entier.
Oui, puis les artistes venaient directement, comme ils continuent d'ailleurs de le faire.
Une fois par semaine, il y a des lives ici.
Oui, samedi, c'est un garçon qui écoute Nova depuis qu'il est tout petit, qui nous a amené comme ça une sculpture avec des beaux lettrages façon graffiti autour de Nova et de son logo.
Nous, on fait des lives comme... Tout à l'heure, on est à Sidarab, ils sont en train de s'installer là. Il y a énormément de gens qui sont venus écouter. Parce que j'étais jaloux, parce qu'à chaque fois que je voyais des orchestres, des groupes, des musiciens, de la fantaisie arriver à Nova, on me disait c'est pour Bintou.
Alors, voilà, ça continue dans Neo Geo et sur Nova aussi.
Et ça continue, puisque chaque samedi, vous en avez. Ce Neo Geo de dimanche à 10h, c'est un peu spécial.
Oui, c'est un peu spécial. Un hommage musical, en tout cas quelques histoires, quelques aventures musicales d'un producteur, d'un monsieur qui s'appelait Jean Caracos, qui est décédé le 22 janvier dernier. Et puis c'est assez bouleversant en revisitant tout ce qu'il a produit, soutenu ou distribué, parce que ça couvre effectivement toute l'histoire de Nova avec le jazz, les archichepes. Au retour du festival panafricain d'Alger en 69, il a enregistré donc en quelques nuits une dizaine d'albums de jazz avec les Don Cherry, les archichepes. Il y a aussi la New Wave, il y a eu le premier 45 tours de téléphone par exemple, et Alan Vega. avec Bernard Zécry, ici présent, notre directeur à New York. Ce fut toute la période hip-hop électro. Ça continue. Alors, il y a eu la grosse histoire de la lambada aussi, Coast, ouais. Les musiques africaines.
Alors, et tout à coup, la lambada, voilà. Donc la fortune tombe sur ce type alors qu'il était...
Oui, bon, ça a été... Il y a toujours eu des hauts et des bas dans la carrière de ce monsieur qu'on appelait aussi... Enfin, que Jean-François Bizot surnommait le pirate grec, ou encore l'électron libre. Enfin, lui, il aimait dire j'invente l'histoire de la façon dont j'aurais voulu la voir.
Ouais, c'est pas mal, c'est une manière de recréer le monde.
Voilà, en le racontant. Alors, il y a eu l'épisode, effectivement, Lambada, et puis d'autres, plus récemment, même un label de musique électronique. Des personnes curieuses, passionnées, comme l'ont été Jean-François Bizot ou encore Rémi Colpacopoul.
C'est de la génération aussi Chris Blackwell et ces gens-là qui...
Oui, c'était dans cette période-là, mais lui, il était à New York, et avec son label Celluloid New York. Ça a commencé à Paris avec Gilbert Castro, Celluloid Paris, et puis ensuite, il y a eu cette
Vous
antenne.
Nous avez apporté un son
Oui, un son, alors qui est pré-Lambada, c'était 20 ans avant. Et pour montrer que Jean Caracos s'intéressait déjà aux musiques tropicales, c'est une de ses premières productions. Je remercie d'ailleurs Vincent Tarrière, journaliste, pour cela. C'est la Pachanga, une Pachanga.
On va
danser la Pachanga.
Bintou, merci.
C'est fin des années 60, je crois.
Néo Géo, c'est dimanche de 10h à 13h, spécial Jean Caracos. Avec voilà, le monde, tous les croisements, toutes les rencontres.
Voilà,
de
et des
Caracos.
Amis qui viendront commenter ces sélections musicales, que ce soit Jean Rouzeau, Thierry Planel, ex-directeur
voilà, de
Nova,
sur la
ou Bernard
Pachanga, puisqu'il va y avoir juste après le journal de Marie Bonisso qui s'assoit, qui va danser la Pachanga en préparant son journal. Merci Bintou.
Merci.
La Pachanga. Retrouvez donc, n'oubliez pas, Bintou et Reza, leur émission dimanche à 10h, ici même. Le journal de 8h32.
Radio Nova.
En France, l'affaire Théo prend de l'ampleur. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies hier soir à Paris et à Nantes pour dénoncer l'agression de ce jeune d'Aulnay-sous-Bois. Je rappelle que dans cette affaire, un policier est mis en examen pour viol, 3 autres pour violence volontaire. À Aulnay, après 3 nuits marquées par des incidents, le calme est revenu. Hier, 5 personnes ont été condamnées en comparution immédiate au tribunal de Bobigny, accusées d'avoir participé aux échauffourées à Aulnay. 2 jeunes ont pris 6 mois de prison ferme, 3 autres 6 mois avec sursis. On leur reproche d'avoir amassé des pierres et plongé la cité des 3000 dans le noir avant d'affronter la police. Étape importante dans le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les députés britanniques ont adopté hier soir le projet de loi qui autorise la première ministre Theresa May à déclencher le Brexit. Le texte arrive maintenant à la Chambre des Lords. L'ultra-conservateur Jeff Sessions, inspirateur du fameux décret anti-immigration, a été confirmé à son poste de ministre de la Justice. Les sénateurs républicains ont voté en bloc pour valider sa nomination. Jeff Sessions, pour mémoire, c'est aussi celui qui, dans les années 80, avait reproché à un avocat blanc de, je cite, « faire honte à sa race en défendant des Noirs ». En football, l'OM repart grâce à Bafé Timbi, Gomis et Dimitri Payet, qui ont marqué chacun un but hier soir, 2-0 au Vélodrome contre Guingamp. Marseille reste 6e au classement de Ligue 1, à égalité avec Saint-Etienne qui a perdu en revanche contre Nice 1-0. But de Willian Cyprien. Et puis l'OL a largement battu Nancy. C'était score final 4-0. Drake décroche le milliard avec Views, premier album à avoir été écouté 1 milliard de fois sur Apple Music. Et le single One Dance, 1 milliard d'écoutes sur Spotify. Drake est donc premier au classement des ventes d'albums 2016. Et puis, un mot du temps, le soleil devrait refaire son apparition quand même aujourd'hui, surtout sur la côte atlantique. Mais attention, il va faire un petit peu plus froid, couvrez-vous.
Merci, merci beaucoup Marie. Atmen est parti un peu voir l'installation d'Acide Arabe qui va jouer en direct ici. Comment ça se passe? Il y a une balance, Atmen?
Oui, je suis avec Rudy qui se prépare, les musiciens sont là. Il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde. Il y a à peu près 1000 personnes selon la police et 2000 selon les manifestants, donc c'est magnifique. Et là, je suis avec Christophe Payet, qui veut parler de son nom. On dit Payet ou Payette?
Mais on dit Payet, bien sûr, on dit Payet comme Dimitri.
Vous aussi, Payet, Christophe?
C'est la plus grande famille réunionnaise depuis le XVIe siècle. En métropole, on a tendance à dire Payet, mais la vérité, c'est Payet.
Parce que ce n'est pas métropolitain, c'est de Réunion, vous disiez?
Eh oui, c'est réunionnais, c'est un
je présente mes excuses
comme
à Waro, tous les Payettes.
Voilà, s'il vous plaît, du respect.
Pendant ce temps-là, je suis avec Cécile Gentilin, qui est coiffeuse radio, qui est aussi maquilleuse de son seul et qui s'occupe aussi de tous les physiques des gens de l'autre côté du mur. Cécile, ma coiffure radio, comment vous l'avez conçue?
Je m'occupe de
comment est mon cheveu? Comment est mon cheveu?
Magnifique le matin. Voilà, pour ça. On est en raccord tout le temps avec toi.
Est-ce que le cheveu est le même le matin et le soir?
Non, la preuve. Voilà. Je te vois, je t'avais jamais vu le matin aussitôt.
C'est du travail.
Oui, c'est du travail, et c'est pas simple.
Merci, merci Cécile de cet apport à l'émission. Oui. Jack Souvent, qui est aussi capillairement incorrect, qui est dans les rues de Villeurbanne en ce moment, à la recherche de la vérité.
Oui, sur le cornichon. La vérité sur le cornichon.
C'est quoi le cornichon?
Je vois un bocal de cornichon.
Bintou, elle est très interloquée par cette histoire de cornichon.
En vente ici, Maison Marc, le dernier producteur français. Bonjour Jacques Pinatel.
Bonjour.
Je dis Jacques Pinatel parce que c'est écrit sur votre blouse que vous êtes bouché.
Tout à fait, je suis bouché et on vend effectivement les derniers cornichons français.
Qu'est-ce que cette histoire?
Alors cette histoire, c'est que tous les cornichons que vous achetez de chez Maille, etc., viennent d'Inde ou d'ailleurs, et qu'il y a une famille qui a relancé ça en 2012, qui cultive les seuls cornichons français mis en bocaux en France et vendus dans les petites boucheries, les petites épiceries fines, etc.
Mais en même temps, c'est super chouette de dire qu'on mange des cornichons d'Inde.
Oui, oui, c'est la mondialisation. C'est bien aussi de savoir qu'on en mange en France.
Le cornichon, avant d'être mis dans du vinaigre, ça ressemble à quoi? Ça pousse sur quoi?
Alors moi, je suis boucher. Hein. Je ne suis pas cultivateur de cornichons, mais ça pousse dans des champs, tout simplement. Ils ont 15 hectares de champs de cornichons.
Alors tout à l'heure, on aura un planteur de cornichons qui nous parlera de viande, mais
oui.
ça pousse. C'est des arbres. On dit un cornichonnier. On dit quoi?
Ah ça, moi je peux vous parler des entrecôtes et des côtes de bœuf.
On a parlé à la mauvaise personne, ah, c'est incroyable.
Mais oui, mais on est tous spécialistes de quelque chose qu'on ne connaît pas.
C'est ça, mais tout à fait.
Hein, c'est
en
ça
tout
la
cas,
vie.
C'est un très bon produit qui se vend très bien. Et les gens, c'est un produit qui se vend un peu cher, mais les gens sont prêts à mettre ce prix pour acheter un produit de qualité et des produits pas très loin de chez eux. Quoi.
Je suis d'accord avec vous, ça se vendra tant qu'on en achètera. C'est en
exactement.
Tout cas le rapport que j'ai par rapport à ce produit. Merci beaucoup Monsieur Pinatel, et non pas Pinatelette, comme les autres qui étaient ici, qui sont obsédés par la finale ET. Merci à tous. Christophe Méné, vous en avez tiré quoi?
Bah moi, ça m'a donné envie d'acheter des cornichons.
Non,
parce que j'adore ça.
Non, mais pousse ton raisonnement, va plus loin.
Ah, mais j'étais au bout.
Il y a eu l'info, il y a eu déjà le décalage sur l'info. Redécale, repousse, recentre au contraire. Mais vas-y, marque un but, fais quelque chose, pars en touche.
Mais déjà, j'ai rien compris, là. J'aime bien ton conseil, si tu veux.
Mais
je l'ai pas compris. Pousse plus loin, j'étais complètement au bout.
Tu prends une info brute. À ce moment-là, tu en tires quelque chose de personnel, ou bien tu le pousses dans l'illusion, dans la poésie, ou au contraire, tu l'approfondis, tu l'ancres dans le réel et tu veux en savoir plus.
Mais toi, t'en as retiré quoi du cornichon?
J'en ai retiré qu'il y a des cornichons indiens et qu'on peut faire de la viande et s'intéresser à autre chose.
Ah, c'est vrai, ça va plus loin.
Tu sors.
Pardon.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Eugénie, il y a Eugénie Poumaillou qui... On était en train de débriefer. Bouchta était en forme, hein, Eugénie.
Très, très en forme.
Oui, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Et là, Bouchta, tout à coup, ses chroniques de son quartier, on y était.
Absolument. Et moi, j'aimerais avoir la suite la semaine prochaine.
Alors, on aura la suite. Là, nous avons la suite. Tout à coup, on part plus loin, plus haut, plus grand, plus fort. Ça n'est pas Pierre de Coubertin, c'est Thomas Rivi qui est avec nous.
Waouh.
Thomas, vous êtes vous avez été nommé expert international de l'émission.
Et c'est la première fois de ma vie, je pense, que je suis expert de quelque chose officiellement.
Ne le dites pas.
Je suis hyper ému.
Vous êtes un très bon journaliste et vous êtes un expert, cher Thomas. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le monde aujourd'hui? Thomas Baumgartner est avec moi afin de vous coincer sur les deux côtés du court de tennis.
C'est parfait. Bah aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme politique accusé de détournement de fonds publics, qui crie au complot, qui part d'un plan ourdi contre lui. Il accuse les journalistes de désinformation et donc il refuse de répondre à leurs questions. Et évidemment, c'est pas celui que vous croyez.
C'est pas international.
C'est international. Ah, ce monsieur s'appelle Liviu Dragnea. C'est l'homme politique le plus puissant de Roumanie, actuel chef du Parti socialiste et président de la Chambre des députés. C'est à cause de lui que des centaines de milliers de Roumains sont descendus dans les rues ces 10 derniers jours. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est qu'on peut faire des tas de parallèles, plus ou moins honnêtes, avec l'actualité française. Liviu Dragnea est jugé depuis le 31 janvier dernier pour avoir payé avec de l'argent public des secrétaires de son parti politique, en gros une affaire d'emploi fictif. La somme détournée serait de 24 000 euros. C'est beaucoup dans ce pays où le salaire moyen tourne autour de 500 euros par mois. Donc oui, ça ressemble un peu à ce qui se passe chez nous. Mais il y a aussi des grosses différences. Tout d'abord, la réaction du gouvernement qui est du même bord politique que Liviu Dragnea. Le jour du début du procès, il a tenté de faire passer une ordonnance en urgence pour fixer un seuil de 44 000 euros d'infraction permettant des poursuites pénales dans les affaires de corruption. Si cette ordonnance était passée, l'homme politique accusé aurait été acquitté immédiatement.
Donc c'est un peu énorme quand même. Il a dit en dessous de 44 000, on n'a pas le droit de poursuivre les gens. Tiens, comme par hasard, mon affaire touche 25 000
euros. Je ne suis même pas sûr qu'ils ont osé dire tiens, comme par hasard. Et là aussi, il y a une grosse différence avec la France, parce que 10 000, puis 200 000, puis 500 000 personnes ont manifesté pour protester contre cette ordonnance. Et le gouvernement a fini par reculer dimanche dernier. Liviu Dragnea sera donc finalement bien jugé. La théorie du complot n'a pas pris dans l'opinion publique roumaine.
C'est vraiment à cause de la pression de la rue, vous pensez ?
Oui, complètement, mais pas seulement. C'est également à cause d'une femme qui a un surnom qu'on a surnommé en Roumanie l'incorruptible des Carpates.
C'est Dracula ?
Pas du tout. Non, pas du tout. C'est quand même un des surnoms les plus merveilleux qu'on puisse avoir. Même pas seulement dans les Carpates.
Moi, on m'a jamais appelé comme ça.
Sur certains réseaux, oui. Je...
dans certains milieux, dans certains bars. Dans
certaines
certains
heures de la nuit, oui, pardon.
C'est l'autre personnage principal de cette histoire. Elle s'appelle Laura Codruta Kövesi. C'est une procureure, chef de la Direction nationale anticorruption. Elle en a pris la tête il y a 3 ans et elle a plein de surnoms. Donc l'incorruptible des Carpates, c'est mon préféré. Elle a fait arrêter dans sa carrière et juger des milliers de responsables politiques, et pas seulement de petits niveaux, des maires, des présidents de départements, des députés, des ministres, et même un premier ministre, celui qu'il avait nommé à son poste. Beaucoup de ces hommes politiques ont fini en prison. En Roumanie, les hommes politiques corrompus, certains en tout cas, ils vont en prison. J'ajoute que Laura Codruta Kövesi a un profil de personnage de film. C'est une ancienne championne de basket, plus jeune procureur de l'histoire du pays, première femme à son poste, et elle a une réputation de dure, intransigeante.
Vous d'un pensez côté, qu'elle reçoit beaucoup de courriers gentils, du genre continu, qu'elle n'a pas besoin de garde du corps?
Je vais vous raconter. D'un côté, il y a donc l'homme politique accusé de détournement d'argent public, de l'autre, l'incorruptible des Carpates, et ça donne forcément un beau combat qui dure en fait depuis plusieurs années. Il y a 2 ans, c'est elle qui a fait condamner une première fois Liviu Dragnea, l'homme politique, pour fraude électorale. Et en Roumanie, là aussi, il faut souligner la différence avec la France, une loi prévoit qu'on ne peut pas devenir ministre ou Premier ministre quand on a été condamné. Premier ministre, un poste qui était pourtant promis à Liviu Dragnea après la victoire de son parti aux élections en décembre dernier. En gros, elle lui a tué sa carrière politique. Résultat, Liviu Dragnea déteste la procureure, et ce n'est pas le seul chez les hommes politiques. Il l'accuse de chercher à se faire de la pub, d'être manipulé, politisé, malhonnête. Elle reçoit effectivement de nombreuses menaces, mais en revanche, c'est une héroïne pour beaucoup de Roumains. Dimanche soir, les manifestants, donc à l'énorme manifestation, 500 000 personnes, oui. Les manifestants criaient ceci, écoutez bien, « Dragnea nu uita te aste apta Laura ».
Ça vaut le coup de traduire pour les quelques...
Ça veut dire en français, « Dragnea, n'oublie pas, Laura t'attend ». Laura Codruta Kövesi peut donc se targuer d'être sans doute l'un des seuls juges au monde dont le nom est scandé par la foule. Et là aussi, on pourra noter la différence avec la France.
Comme Batman, quoi. Batman t'attend, Zorro t'attend. C'est une sorte de super-héros local.
Mais on dit ça à quelle manifestation, Batman t'attend?
Alors,
t'attend.
Ici non, parce qu'il ne vit pas en France, mais c'est l'équivalent. Oui, oui. En France, on dirait qu'il n'y a pas un juge, on dirait il t'attend.
Super Dupont aussi.
Super Dupont t'attend. Il y avait, comment s'appelait aussi la candidate? Eva Jolie t'attend, on aurait dit à une
époque. Eva Jolie,
oui. Oui, enfin, ça sonne. Quand j'ai honte, vous voyez, on a une vision de la Roumanie qui n'est pas bien, on caricature les choses, et bien, ils nous donnent des leçons.
Et c'est les champions d'Europe de la lutte anticorruption.
Thomas ?
Oui, Edouard ?
Aviez-vous un dernier mot ?
Non, je trouvais ça parfait.
Eh ben merci. Alors, voilà. Salut Thomas, merci beaucoup.
Merci à vous.
À tout de suite, on va les retrouver bientôt à Sid Arab qui se prépare en direct, en live, avec beaucoup d'auditeurs qui sont venus. On se détend, on est avec Atmen. Alors, c'est incroyable parce que là, donc, il y a Sid Arab, ils sont en train de se préparer à côté. Vous savez qu'il y a eu 600 à 700 personnes qui ont voulu venir le matin les écouter.
Il y a un monde fou.
C'est chroniqueur mondain.
Ben oui, il y a un monde dingue.
Il y a champagne tiède.
On repousse du monde. D'ailleurs, on a pas pu, c'est complet.
On n'a pas pu prendre tout le monde parce que je ferais des trucs de sécurité. Armel, on peut pas y avoir plus de 60 personnes.
Je
ne
suis pas spécialiste de sécurité. Oui, oui, alors
non,
je vais
dire
oui.
Je prends un interlocuteur, Armel. Vous n'êtes pas obligé. Vous dites oui.
Oui.
Alors, Constance, il y a Constance qui l'a. Constance, elle est réceptionniste ici le matin.
Oui.
Oui.
Et alors, ça vous permet de payer vos études à quel cours de théâtre ?
Au cours Simon.
Au cours Simon. Donc vous travaillez de quelle heure à quelle heure ?
Là, je travaille de 8h à 14h.
8h à 14h. Et en fait, vous êtes arrivée à Paris d'où ?
Moi, je viens du Poitou.
Oui. De quelle ville alors ?
Mel.
Alors, je ne situe pas bien, Mel.
Moi non plus, mais je connais le Poitou.
Et comment vous avez eu l'idée d'être comédienne alors ?
Je fais du théâtre depuis que je suis petite, en fait.
Et puis là, on se dit, allez, on monte à Paris, on s'inscrit au cours Simon.
Oui.
Et qu'est-ce que vous travaillez, par exemple, comme scène, Constance ?
Alors, je travaille la scène de Roxane et Cyrano et un poème aussi.
Mais alors, la prochaine fois, Atmel, vous le travaillez avec Atmel ?
Mais je la connais, moi.
Mais la scène de Cyrano et Roxane, parce que vous avez un très bon Cyrano.
Ah non, mais moi, je la connais, celle qu'elle travaille.
Ah bon ?
Mais elle la fera après.
Mais c'est un ancien dialogue ou c'est des monologues?
C'est un dialogue.
C'est un dialogue.
Allez-y.
Et tout d'abord, merci. C'est vous qui commencez.
Commencez avec Atmen.
Non, c'est vous.
Et tout d'abord, merci, car ce fat bon, grand jeu des pays. Vous avez...
Oui. Ok. Mais tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu des pays hier, vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi...
De guiche.
Cherchait à m'imposer comme mari.
Postiche. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux.
Puis, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc, près du lac.
Oui, nous passions tous les étés à Bergerac.
Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées.
Et le blé, les cheveux blonds de vos poupées. Le cheveu
blond de vos poupées. J'arrête là, mais c'est étonnant parce que vous vous le rappelez, vous ne l'avez pas travaillé du tout.
Ouais, mais c'est beau.
Ah ben vous me le travaillez pour la
semaine. Quand même pas. Ah, c'était la minute culturelle.
Non, je ne suis pas très bien.
Moi j'adore.
Vous êtes formidable.
Madeleine Robin, elle s'appelait Roxane, c'est à la fin, c'est magnifique.
À tout de suite, parce que là on est obligé d'envoyer la pub. Depuis que j'ai que Nissan m'a fait une blague, tout le monde pense que je suis entièrement sponsorisé, vous savez.
Je vous ai vu arriver en Nissan tout à l'heure.
Je suis le mec le plus discrédité.
Non mais c'est vrai. Il y a une Nissan avec votre portrait.
Je vais dire un nom de marque à la place. Au lieu de dire je prends un café, je vais prendre un espresso. Au lieu de dire mes chaussures, je vais dire mes batas. À tout de suite.
Il me faut des Louboutins.
7h, 9h, plus près de toi.
Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Alors je suis là sous la verrière au Café Nova, est-ce qu'il y a du monde ici? Ah oui, c'est délirant, c'est délirant, il y a un monde fou qui s'inscrit pour Acide Arabe. Les gars, on était très impressionnés, parce que quand j'ai annoncé, la semaine dernière, c'est moi qui chantais, il y avait deux personnes, et là, est-ce que c'est parti, vous êtes en train de vous starifier?
Je sais pas, il faut demander.
chacun rejaillit sur l'autre. Alors, moi, j'ai lu pas mal de choses sur vous avant de vous avoir écouté. À chaque fois, les gens mettaient en parallèle avec Gotham Project, je sais pas pourquoi, disant sur ce mélange entre deux cultures, sur des choses qui naissent par hasard. Pourquoi vous croyez qu'il y a ce parallèle?
Ce parallèle est assez juste parce que leur démarche à Gotham Project était un peu. Ce que j'ai su, c'est Jacques Denis, non, qui a parlé de ça, c'est ça? Donc ouais, Gotham Project, ils ont eu un intérêt pour tout ce qui est tango et ils sont leur interprétation de la musique électronique à une époque s'adaptait à la musique dans l'air du temps. C'était un peu lounge, c'était un peu là aujourd'hui on fait quelque chose d'un peu plus dur parce que c'est un peu plus.
Alors vous êtes venu jouer. Déjà, vous avez la gentillesse de venir le matin à l'heure où les animaux vont boire et les musiciens restent dormir. Et puis je vous précipite un micro sous la bouche. Est-ce que c'est un acte désagréable de me précipiter vers vous et vous? Chacun se renvoie la balle. Je vous fous la paix, les gars. Rudy, recontextualisez, s'il vous plaît, ces grands messieurs d'Acide Arabe.
En 1986, le groupe de Rachida, Carte de Séjour, se réappropriait avec audace et finesse le Douce France de Traînée, un titre devenu symbole d'une jeunesse métissée et profondément antiraciste. 30 ans après, le message reste le même. Le chemin de la création, lui, s'est inversé, preuve que l'intégration n'est plus la question, que la culture est devenue commune. Acide Arabe ne fait pas de la musique arabe, car ces musiques sont en France depuis tout le temps. Acide Arabe fait de la musique de France, titre de leur premier album. Le duo Hervé et Guido, rapidement devenu quintette, rejoint par Nicolas, Pierre-Yves et Kenzie, a réussi à créer une musique hybride, dansante, joyeuse, hédoniste, en mettant sur une même ligne la musique orientale et l'acid house, avec comme base commune la trance. Quand la passion est aussi entière et respectueuse des traditions, alors on peut tout se permettre. Nous sommes fiers de ce groupe qui se revendique tant de l'histoire de Radio Nova. Messieurs, nous croisons les doigts pour que Musique de France voyage très, très, très loin dans le monde. Ils vont nous interpréter deux morceaux. Alors, ce n'est pas les morceaux les plus énervés, comme le disait Hervé, de l'album. C'est des morceaux sur lesquels il y a du chant. Le premier morceau est La Hafla, qui veut dire la fête en arabe, avec comme invité Sofiane Saïdi, qu'on connaît bien de ses ondes, puisqu'il avait ouvert la nuit zébrée au Bataclan d'une manière très élégante. Et on aura un second morceau derrière pour les gens qui sont sur le Facebook Live de Radio Nova, avec un autre invité qui est Jawad El Guerouche.
Messieurs, c'est à vous. Ça n'est ni acide ni arabe, c'est acide arabe. Acide arabe avec Sofiane Saïdi, magnifique. Merci messieurs, c'est fini. Demain, un best-of. Merci à tous, je vous souhaite une très belle journée. Vive les 30 Glorieuses, car maintenant, salut. Merci Rudy.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.